Bon, on va démarrer cette journée. Alors, merci d'être venu. Nous ne sommes pas très très nombreux, mais c'est un classique à l'Espace Mendès France, les journées, les conférences organisées à partir du mois de mai attirent un peu moins de monde. Il y a la concurrence du beau temps, des examens pour les
Oui,
étudiants, etc.
plutôt ça.
Des tas de raisons qui font que nous avons un peu moins d'auditeurs, de spectateurs à cette période de l'année. En tout cas, si la quantité n'y est pas, la qualité y est. C'est là l'essentiel. Au nom de l'Espace Mendès France, je suis ravi de vous accueillir ici, en compagnie de l'école de l'ADN. Et je laisserai Christian Berryer et Laurent Fillon et dire un petit mot. Et on vous accompagnera tout au long de la journée. J'excuse Didier Moreau qui est parti dans les Deux-Sèvres, puisqu'aujourd'hui il y a une activité avec le Conseil général des Deux-Sèvres qui fait qu'une partie de l'équipe de Mendès France n'est pas là. Nous sommes aujourd'hui ici pour la troisième journée consacrée aux nanotechnologies. L'Espace Mendès France et l'école de l'ADN auront fait un gros effort depuis le mois de novembre dernier, puisqu'après une conférence inaugurale par Dominique Vinck de Grenoble, nous avons eu une première journée consacrée aux nanobiotechnologies en décembre, une seconde consacrée aux nanosciences. Donc la toile de fond derrière les nanotechnologies au mois de février. Aujourd'hui, nous parlons d'application et nous finirons le 15 décembre prochain par une journée d'études consacrée aux aspects sociétaux, donc toutes les conséquences et finalement l'évocation du débat qui est aussi en toile de fond des nanotechnologies, ce qui n'empêchera pas aujourd'hui de débattre si vous avez bien sûr des questions. Et puis est venue se rajouter aussi une initiative qui n'était pas prévue au départ, c'est que à partir de la dernière semaine d'octobre, c'est-à-dire au moment de la fête de la science, sera installée une exposition consacrée aux nanotechnologies et nous sommes en train de travailler sur sa mise en place, sa conception. Donc vous voyez que ça fait finalement une activité intense autour de ce thème qui est finalement devenu un thème, sinon réellement populaire, en tout cas largement débattu dans les médias, dans les sphères politiques et décisionnelles, pour des raisons qui se justifient par ailleurs. Voilà, je vais donc laisser la parole à Christian Berryer pour dire quelques
Oui,
mots.
bonjour. L'école de l'ADN, effectivement, est impliquée dans ces journées depuis le début. L'école de l'ADN Poitou-Charentes, c'est une école qui a démarré il y a à peu près 4 ans et qui a accueilli au mois de novembre le 10 000e participant à ses ateliers. Alors les ateliers sont des ateliers qui traitent de la problématique ou des problématiques de l'ADN. Ces ateliers sont ouverts au public scolaire, au public citoyen, comme on dit, et aux associations de malades génétiques. Ces ateliers sont animés par Laurent Fillon, qui est à ma gauche, et par Laurent Séchard, qui est dans la salle. C'est un très très gros travail. Il faut savoir aussi que ces ateliers peuvent se déplacer dans la région, et heureusement, parce que sinon on aurait touché beaucoup moins de public. Je crois qu'on est sur une dynamique très importante, mais peut-être que Laurent peut nous donner d'autres précisions à ce sujet.
Oui, je peux donner juste quelques précisions. Juste que ces ateliers, c'est vrai, quand on dit atelier, on pense atelier pour enfants, ce sont des ateliers pour enfants et adultes. Voilà, et on a plus de public. Les deux tiers, c'est du public adulte. Hein, et puis, le tiers restant, c'est des enfants qui accompagnent les adultes. On est à peu près à 12 000-13 000 participants, donc depuis la création. Quand on ramène ça en des petits groupes d'une dizaine, ça fait un certain nombre d'ateliers là depuis 2006. Voilà.
Bien, bah écoutez, on va pouvoir y aller.
Voilà, on est presque à l'heure.
Juste peut-être donner deux, trois petites modifications, puis regarder l'heure, on va démarrer tout de suite. En fin de matinée, on devait avoir une intervention d'Éric Gaffé, mais qui devait arriver hier soir et qui a été retenu par les problèmes à Montparnasse, voilà, par les infirmières, Diane, et infirmiers, voilà,
anesthésiste.
Et anesthésistes. Ce qu'on va vous proposer, en fait, parce qu'il ne nous rejoindra pas pour 11 heures, c'est que il reviendra, voilà, Il reviendra en décembre. Et puis, on va faire glisser l'intervention donc, sur la propriété industrielle donc, par Julie Senatiempo. Donc, au lieu de 15h30, elle passera à 11h ce matin. Voilà. On va démarrer tout de suite pour essayer de tenir.
Bon.
C'est Yves. Voilà, c'est bon.
Oui. Yves, quelques mots quand même pour te présenter, si tu
Merci.
Permets. Donc, Yves Senatiempo est professeur de biochimie et de biologie moléculaire à l'Université de Poitiers. Alors, je passerai sur sa carrière université brillante pour aborder plutôt tout ce qu'il a fait dans les domaines connexes ou annexes, mais qui n'en sont pas moins importants. Je voudrais retenir son implication dans la vie de l'université, dans le développement économique et la médiation scientifique. Il est en effet coordonnateur du pôle biologie santé qui regroupe des laboratoires de l'université et du CHU. Il est animateur du secteur biochimie du pôle de recherche d'enseignement supérieur qui regroupe l'université de Poitiers, l'université de La Rochelle et l'université de Limoges. Il est ancien président, alors on dit président d'honneur.
Oui, honoraire.
De l'espace Mendès France. Et il est maintenant directeur scientifique de l'EMF depuis quelques mois. Il est aussi membre fondateur et premier président de l'école de l'ADN Poitou-Charentes. Et puis, il a créé une entreprise innovante, Biosidex, qui est spécialisée, entre autres, dans la vectorisation de principes hydrophobes par cyclodextrine modifiée. Et je pense que les cyclodextrines doivent être à la limite du nano,
oui.
Hein, limite inférieure du nano. Mais bon, ceci ne l'a pas empêché de regarder un tout petit peu au-dessus et de s'intéresser depuis très longtemps aux nanomatériaux et nanotechnologies dont il va nous faire l'inventaire ce matin.
Merci. Alors, donc, je vais parler... de l'ensemble des applications de nanotechnologie en faisant exception par rapport à ce qui va être développé plus en détail, en particulier par la présentation suivante et Noël Magnat qui parlera des applications dans le domaine du médicament. Donc là, je passerai ce chapitre-là. Mais je vais plutôt vous donner une vue générale. Et je vais commencer par un préambule qui va vous donner une idée de la difficulté de faire un inventaire dans ce domaine-là, et puis aussi par quelques autres données, de manière à poser, on va dire, une certaine réflexion quant au débat que l'on mène aujourd'hui à propos des nanotechnologies. Alors, première des choses, et vous allez peut-être être surpris, voilà un ensemble d'objets, vous avez même une petite devinette ici, qui va nous amener aux nanotechnologies. Alors, a priori, vous pouvez être surpris de ce dont il s'agit. Donc, ici, vous avez une pierre, deux maisons, des ruines, trois ruines. Alors, ici, c'est quatre fossoyeurs, un jardin, des fleurs et un raton laveur. Alors, voilà, je vous mets ça, quatre fossoyeurs, un jardin. Et donc, si je vous demande ce dont il s'agit, eh bien, c'est la première strophe d'inventaire de Jacques Prévert. Et bien voilà, donc comme quoi on peut dans un inventaire rassembler des choses assez hétéroclites pour lesquelles il va falloir trouver un lien. Et donc ça, c'était mon problème lorsque je me suis posé la question de la façon de présenter cet exposé d'aujourd'hui. Alors deuxième chose, c'est toujours dans mon préambule, ce sont trois photos. La première, vous allez me dire, c'est le volcan islandais, alors Eyjafjöll, je crois que c'est comme ça que l'on prononce. Alors je me suis amusé parce que j'en ai pris un autre, qui est toujours islandais, mais c'est un volcan qui a été en éruption en 2004, mais c'est la même histoire. Donc énormément de fumée, de cendres. Deuxièmement, ça c'est plus récent, c'est un événement qui n'est pas encore terminé, puisque c'est... l'accident de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, qui au départ a été en feu, puis en plus on a maintenu ce feu pendant plusieurs jours pour essayer de brûler le pétrole qui s'échappait de ce puits, de ce forage. Et ici vous avez une photo avec de la fumée de cigarette. Alors là, j'ai été très surpris parce que dans l'actualité, alors qu'on parle beaucoup de nanotechnologie, je n'ai pratiquement rien vu dans les médias à propos des nanoparticules qui sont émises lors de ces phénomènes. Or, ce sont des quantités absolument monumentales qui sont émises. En même temps que des cendres de grande taille, évidemment, il y a des nanoparticules qui sont émises. Alors, je n'ai pas trouvé de nombre qui permettait de connaître la quantité de nanoparticules qui étaient émises et qui retombaient et que l'on respirait dans l'atmosphère dans ces deux cas. Mais enfin, il faut retenir que toute combustion donne naissance à des nanoparticules ou à des particules en général, mais aussi des nanoparticules. Et alors, dans le cas de la cigarette, alors là, il y a des études scientifiques très importantes qui ont été publiées, et j'en ai retenu une qui est assez récente, qui dit la chose suivante. Donc, dans la fumée de cigarette, on distingue deux flux. Le premier, appelé S1, c'est un flux dit actif, c'est celui qui est inhalé par le fumeur. Et le deuxième, qui est le passif, inhalé par le voisinage, c'est-à-dire dû à de la combustion lente. Eh bien, dans les deux cas, il y a des particules qui sont émises au milieu de 400 autres produits que l'on retrouve dans la fumée de cigarette. Eh bien, il faut retenir que les particules moyennes trouvées dans la fumée de cigarette pour le fumeur, c'est de 270 nanomètres. Et on va voir que c'est légèrement au-dessus de la taille considérée comme étant nanoparticulaire, mais pour l'environnement, on est en plein dedans, 90 nanomètres, c'est en plein dans la taille des nanoparticules. Et donc à ce moment-là, on se retrouve tous en train de respirer des nanoparticules, et voilà la quantité de particules qui se retrouvent dans la fumée de cigarette, c'est de 1 à 10 milliards de particules par centimètre cube. Donc je vous laisse réfléchir à ces nombres-là, à mettre en regard des préoccupations de tout un chacun, de la dissémination des nano-objets qui vont résulter de la mise au point de nouveaux produits à l'avenir. Alors ça, ce sont des publications scientifiques publiées en France récemment. Alors j'en ai fini pour le préambule, pour en venir au sujet vraiment que je veux développer aujourd'hui, et ça explique le titre que j'avais choisi, Inventaire à l'après-verre, bien évidemment. Alors je commence par un inventaire, simplement pour avancer un tout petit peu, en essayant de réfléchir, je me disais qu'est-ce que je peux dire pour essayer de regrouper des objets. Alors ici on n'est pas dans les nano-objets, mais simplement j'ai voulu ici rassembler des objets qui avaient une propriété en commun, alors objets ou animaux, et la propriété ici, c'est qu'une des dimensions est comprise entre 10 et 30 cm. J'ai pris ça tout à fait au hasard. Donc j'aurais pu choisir autre chose, et il est un fait que lorsqu'on traite de nanotechnologie, il faut immédiatement rappeler cette échelle de grandeur de manière à bien se fixer les idées. Je l'avais déjà fait dans un exposé précédent en décembre, je refais aujourd'hui, et puis je pense que tous ceux qui présentent les nanotechnologies le font en démarrage, c'est vraiment situer la taille des objets dont on parle. Donc ici, cette échelle, c'est une échelle logarithmique, parce que si on l'avait fait linéaire, elle n'aurait pas tenu, évidemment, sur un tableau. Donc on part ici des millimètres, 10 mètres par mètre, et on descend ici au nanomètre, et puis plus bas on est à l'angstrom, donc à l'échelle atomique. En termes d'objets, on peut se situer par rapport aux cheveux, on est autour de 0,1 mm pour un cheveu, ou 100 micromètres. Une bactérie, en gros, c'est 1 micromètre, et puis le virus de la grippe est légèrement plus petit, donc avec un virus, on est proche du nanomonde, on est légèrement au-dessus. Et puis donc, à l'échelle inférieure, on a les atomes et puis on a des cristaux. Vous voyez, des gros cristaux qui vont avoir à peu près la taille du nanomètre. Et donc le nanomonde, c'est cet ensemble qui est compris entre 1 et 100 nanomètres. Mais on peut dire que cette limite supérieure est purement artificielle. On peut décider que ce soit 200 ou 300. Et donc les nanosciences et les nanotechnologies se réfèrent à cet ensemble d'objets qui se situe dans ces tailles-là, dans ces dimensions-là. Donc vous voyez que c'est compliqué parce que finalement, on se réfère uniquement à une taille lorsqu'on parle de nanotechnologie et de nano-objets. Et c'est donc relativement compliqué. Et du coup, On va avoir des définitions restrictives, puisque pour continuer sur ce que je viens de dire précédemment à propos des dimensions, selon le domaine industriel d'application, la référence n'est pas la même. Dans certains cas, on considère qu'un objet, vous savez qu'un objet, ça a trois dimensions. Eh bien, dans certains domaines industriels, on considère qu'il y a une seule des dimensions qui doit être nanométrique, le reste pouvant être beaucoup plus long. Et puis, par exemple, dans le domaine de la cosmétique, on considère que les trois dimensions doivent être nanométriques pour qu'on considère qu'on a affaire à quelque chose qui relève des nanotechnologies. Donc, vous voyez que là aussi, c'est fluctuant et qu'il n'y a pas d'accord absolu sur les définitions. Néanmoins, on peut considérer qu'aujourd'hui, en termes d'applications industrielles, de produits sur le marché, il y en a plus de 1000. Et évidemment, c'est quelque chose qui évolue de façon constante. Et vous allez être très surpris, sans doute, par l'évocation des produits dans lesquels se trouvent des nano-objets, donc des produits que l'on qualifie de nanotechnologiques. Alors la répartition, elle a été travaillée par un institut, et je vous donnerai la référence d'un site web à la fin, parce qu'il est régulièrement actualisé, et vous y trouverez beaucoup plus de détails que ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et donc cet inventaire, cette compilation a été faite par une agence française, qui est l'AFSET, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, mais qui a repris les travaux américains, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a jamais eu d'inventaire réellement fait en France. Donc ça, c'est une donnée mondiale. Donc on a des domaines, évidemment, qui sont là aussi pris assez artificiellement, mais on va dire que les produits principaux, vous voyez que vous en avez 60%, qui relèvent de cet ensemble santé, fitness, alors je ne sais pas trop ce que ça signifie réellement, mais enfin, si on prend par le détail, on va dire que c'est la cosmétique qui l'emporte assez largement dans ce secteur-là, avec l'habillement, et je vous donnerai quelques explications, des articles de sport, des crèmes solaires, si tant est que les crèmes solaires ne soient pas dans la cosmétique. Mais bon, elles sont distinctes, elles viennent se rajouter à la cosmétique. Ensuite, vous trouvez donc le secteur des maisons et jardins, l'électronique et l'informatique, l'alimentation, on en dira quelques mots à la fin, l'automobile, exemple sur lequel je vais m'étendre beaucoup, l'électroménager, ça peut vous surprendre, vous en avez dans vos réfrigérateurs, dans certains filtres notamment, et y compris des produits pour enfants, certaines peluches que vous pouvez trouver chez vous, certains nounours notamment, contiennent des nanoparticules d'argent, parce que c'est antibactérien, voilà. Au niveau de la répartition géographique des productions, vous voyez que les USA l'emportent largement, que l'Asie suit, mais les productions asiatiques sont en train de grimper, et que l'Europe est derrière. On est dans une répartition industrielle qui est relativement classique, sauf que dans de nombreux domaines, l'Asie aujourd'hui est en train de surpasser tout le reste. Donc cet inventaire date d'août 2009, donc il est quand même relativement récent, et il vient de cet institut américain qui s'appelle Woodrow Wilson International Center for Scholars, et c'est un projet qui s'appelle Nanotech et qui est mis à jour régulièrement. Et je vous répète qu'à la fin, vous aurez le site internet de référence, qui est quasiment le seul dans le monde où vous pouvez trouver ce type d'inventaire. Alors, la question qui se pose après, c'est comment les classer. Vous avez vu un type de classification, je vais aller assez vite. On peut se baser sur des domaines, et je vais sans doute m'appuyer surtout là-dessus. On peut classer les objets. Je les évoquerai, mais en cours de route, en les reliant au domaine, nano-émulsion, nanoparticules, nanocristaux, fullerène, nanotubes de carbone, puces, nanomachines. Alors, je n'évoquerai pas tout parce que je n'ai pas le temps, mais certains seront évoqués, et puis d'autres, après moi, parleront sans doute d'autres objets. On peut évoquer les nanotechnologies, les technologies pardon, qui sont derrière. On peut revenir à certaines propriétés et on peut se référer à un danger potentiel. Alors évidemment, ce type de classification, il est rare qu'on le trouve officiellement, mais je pense qu'il faut l'intégrer complètement aujourd'hui dans la réflexion, en insistant sur ces deux caractères qui sont les caractères principaux, l'un particulier et l'autre le caractère fibreux. Alors j'insiste sur le côté sur l'automobile. Pourquoi ? Parce que on trouve dans les automobiles modernes un concentré des applications, des nanotechnologies, même si on l'ignore largement. Alors j'ai fait apparaître une photo d'une voiture très ancienne et puis d'une sans doute plus récente. Il est clair qu'ici, il n'y a pas du tout de nanotechnologie. Et la première différence, on va dire, est très très forte entre un modèle ancien et un modèle récent, c'est le poids. Et il semblerait, alors là je dis bien il semblerait parce que je n'ai pas réussi à trouver vraiment de détails, que dans l'ensemble des matériaux qui constituent la carcasse automobile, on introduise aujourd'hui sans doute des nanotubes de carbone pour garder une forme de résistance à l'automobile et en gagnant du poids, ce qui est une des propriétés essentielles que l'on recherche en utilisant des nanotubes de carbone aujourd'hui. En dehors de cette propriété générale, lorsqu'on fait le tour d'un véhicule, eh bien, il y a des éléments extérieurs type peinture, il y a des vitres, il y a des pneus. À l'intérieur, il y a de l'électronique, il y a des pots qui sont catalytiques aujourd'hui, etc. Eh bien, on s'aperçoit que 70% des objets ou des constituants d'une automobile sont concernés par les nanotechnologies. Alors, le premier effet qui est à la base des applications dans ce domaine-là, c'est l'effet qui s'appelle l'effet Lotus, ainsi que je l'ai écrit ici, qui est très simple à décrire. Lorsque vous avez une feuille de lotus et qu'il y a de la pluie ou de l'eau qui tombe sur ces feuilles, cette eau ne se répartit pas uniformément à la surface, elle reste sous forme de gouttelettes, et elle va glisser, et elle va évacuer, non seulement elle va partir, mais elle va évacuer aussi toutes les poussières qui sont en surface, qui vont être emportées par ces gouttelettes qui sont déposées en surface. Donc cet effet lotus, finalement, c'est l'effet qui est reproduit aujourd'hui dans beaucoup de matériaux qui servent notamment dans les peintures automobiles, mais pas que dans l'automobile. Donc ça m'amène à vous dire que lorsque je parle d'automobile, je parle aussi d'autres domaines d'application. On peut penser à l'aéronautique, par exemple. Et on évoquera cet après-midi avec Philippe Pernaud l'aéronautique. Mais aussi un certain nombre d'applications domestiques, un certain nombre de peintures aujourd'hui utilisées dans les bâtiments ou pour couvrir par exemple des bois sont basées sur le même principe. On introduit des nanoparticules dans les matériaux ou à la surface des matériaux, donc dans les peintures par exemple, pour reproduire cet effet lotus. Donc avoir une surface qui a des nanobosses, des nanostructures, permettant d'éliminer facilement toutes les molécules d'eau. Donc on acquiert ici artificiellement un caractère dit hydrophobe et on arrive à un effet qui est auto-nettoyant. Alors il y a d'autres possibilités par de la catalyse, un effet dit autocatalytique, mais néanmoins un effet essentiel est obtenu par ce caractère hydrophobe qui est acquis artificiellement. Et donc ça touche au domaine des peintures et un certain nombre d'autres revêtements et dans les véhicules, notamment les pare-brises. Et sur le net, vous pourrez chercher, vous trouverez des films qui vous montrent certains tests d'automobiles qui n'utilisent pas d'essuie-glace sous une pluie très abondante. On voit que l'eau est évacuée en permanence sans laisser de traces. Et c'est peut-être assez agréable. Je n'ai jamais fait d'expérience dans ce sens-là, mais sans doute c'est intéressant. Et toujours pour rester dans le domaine de l'automobile, mais en l'élargissant à d'autres, eh bien, dans les tissus qui sont utilisés dans la sellerie, donc dans les sièges automobiles, je vais être amené à en reparler, on peut avoir aussi des applications de ce type-là pour avoir conservé un caractère hydrophobe, éviter la pénétration de liquide. Et donc éliminer des phénomènes de salissure à la surface de ces tissus. Quels sont les objets, les nano-objets qui sont utilisés? Ce sont des nanoparticules donc qui ont des diamètres de 1 nanomètre et ce sont divers oxydes, alors les chimistes s'y retrouveront, oxydes de zinc, du cérium, barium, silicium, aluminium. Il y en a toute une collection comme cela avec des propriétés qui varient de selon le type d'oxyde qui est utilisé. Alors je me suis amusé à chercher et puis j'ai trouvé qu'il y avait des produits qui arrivaient sur le marché, un produit dérivé qui est basé exactement sur le même principe, c'est-à-dire que lorsque votre voiture s'est salie, malgré tout, eh bien vous pouvez utiliser un kit d'entretien et j'ai repris le nom tel qu'il apparaît, kit d'entretien de carrosserie nanotechnologie. C'est
assez curieux d'avoir mis un titre pareil, mais enfin, c'est un produit d'origine allemande, mais distribué en France. Et donc, il y a, à l'intérieur, vous trouvez un nettoyant, un polish et une cire. Et en réalité, eh bien, c'est un produit qui contient des nanoparticules, ni plus ni moins, que vous étalez en surface. Et évidemment, vous reproduisez l'effet que j'ai évoqué au niveau des peintures. Alors ici, j'ai mis des guillemets parce que c'est de la publicité complète du site de vente. Ça n'est pas de moi, je vous rassure, je n'ai aucun intérêt dans ce produit et je ne sais même pas si c'est efficace. Donc je l'ai cité à titre de curiosité pour dire que des choses arrivent en permanence, comme ça, sans trop de contrôle, et avec en plus un titre, moi, qui m'effraie, parce que je trouve que ce n'est pas extraordinaire d'avoir annoncé quelque chose de ce genre-là. Alors, dans l'électronique, ben j'en dirai rien parce que Philippe Pernaud en parlera tout à l'heure, mais il est clair qu'on trouve, et c'est par essence, de la nanoélectronique aujourd'hui, puisqu'on était dans la microélectronique il y a quelques années, et qu'on en a une tendance générale à réduire la taille de tous les composants, et clairement, à un moment donné, on descend à la taille nanoélectronique. Et dans la. On peut parler de l'électronique, mais on peut parler derrière de produits qui sont proches des puces. Qui seront peut-être évoqués par Noël Magnéa tout à l'heure, lorsqu'il parlera de diagnostic. On est aussi dans des tailles très très faibles. Alors j'ai évoqué tout à l'heure les revêtements textiles. Je parlais de sellerie en ce qui concerne l'automobile, donc c'est tout ce qui concerne les sièges. On cherche deux effets, l'hydrophobicité, j'ai parlé de l'effet Lotus. Le deuxième, c'est l'effet antibactérien et par voie de conséquence un effet anti-odeur, puisque un grand nombre d'odeurs sont dues à des bactéries qui se développe. Et donc, lorsqu'on veut rechercher un effet antibactérien, eh bien, on va utiliser certaines nanoparticules, en particulier à base d'argent. Et ce sont ces nanoparticules à base d'argent qui sont aujourd'hui au milieu d'un débat qui est tout à fait important, à mon avis. Donc, c'est pour ça que je suis parti de la sellerie automobile pour évoquer tout ce qui touche aux vêtements qui sont dits fonctionnels. Certains parlent de vêtements intelligents, enfin je ne sais pas s'ils sont très intelligents, mais en tout cas ils sont actifs ou fonctionnels. Et derrière, on trouve toujours une propriété dite biocide, donc la capacité de pouvoir éliminer des micro-organismes contaminants, moisissures, champignons, bactéries. Et avec toujours la même problématique des nanoparticules d'argent. Donc derrière, il y a une controverse qui est née récemment et des calculs ont été faits, il y a des rapports qui ont été produits là-dessus. En se basant sur l'exemple de chaussettes qui ont cette propriété antibactérienne et qui contiennent des nanoparticules d'argent, avec deux effets qui ne sont pas clairs. Le premier, c'est est-ce que ces nanoparticules d'argent ont un effet sur la peau? Et la réponse est sans doute oui. Deuxième effet, eh bien, lorsqu'on lave les dites chaussettes, on va disséminer des nanoparticules. Et donc, il y a un calcul qui a été fait sur la base de 2% de personnes qui les utiliseront à l'avenir pour calculer le nombre de tonnes de produits de nanoparticules d'argent émises dans la nature lors des lavages. Et ça va se chiffrer en dizaines de tonnes par an. Donc c'est loin, loin d'être négligeable si ce produit-là devait se répandre. Et donc l'AFCET, dont j'ai parlé tout à l'heure, a émis un avis très réservé. Et je pense que derrière cet aspect particulier, il faut quand même évoquer la notion d'utilité de produits issus des nanotechnologies et l'information du public est nécessaire, puisque je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous aient entendu parler de chaussettes contenant des nanoparticules d'argent jusqu'à aujourd'hui. Pour ce qui concerne les pneumatiques automobiles, donc encore un élément, et bien là, vous vivez avec depuis très longtemps, et là, je peux citer la marque parce que les pneus verts, ça doit vous dire quelque chose, c'est Michelin, ça date du début des années 90, et bien il y a des nanoparticules de silice qui ont été introduites en remplacement du noir de carbone que l'on trouve beaucoup plus classiquement. La conséquence, c'est la diminution de la résistance au roulement et un allègement de la note à la pompe à essence, puisque normalement, on diminue la consommation. Par contre, par voie de conséquence, eh bien, il y a dissémination de nanoparticules de silice lors de l'usure du pneu, même si cette usure, évidemment, est freinée. Alors derrière, mais là, ça reste encore dans les secrets des fabricants de pneumatiques. Les fabricants de pneumatiques ont, sur la base des nanotechnologies, la possibilité aujourd'hui de produire des pneus qui sont inusables. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait à leur avantage, donc ça n'est pas sur le marché. Mais on sait que si jamais ça arrivait un jour, ça aurait une conséquence, c'est que si les pneus ne s'usent pas par l'effet de frottement, ce seront les routes qui vont s'user fortement. Et donc, il y aura d'autres conséquences, bien évidemment. Dernier aspect que je voulais évoquer au passage, c'est le pot catalytique. Et il y a un exposé tout à l'heure de Daniel Dupré. C'est une des spécialités du laboratoire de l'ACO de Poitiers. Et donc, je n'en dirai rien ce matin. Bien, alors, je passe au domaine de la santé. Et là aussi, je resterai muet puisque Noël Magnat, qui va me succéder, en parlera tout à l'heure. J'ai voulu quand même vous donner deux exemples concernant la vaccination pour rester dans le domaine de la santé. Ce sont des exemples que j'avais... L'un d'entre eux, je l'avais évoqué lors d'une présentation que j'avais faite précédemment parce que ça me permet d'amener le thème des nano-émulsions que l'on retrouvera pour la cosmétique. Donc les nano-émulsions, c'est une dispersion et on en fait classiquement en cuisine lorsqu'on mélange un composé aqueux avec... une huile quelconque, donc une substance hydrophobe. Et donc le principe, c'est d'encapsuler des substances hydrophobes et masquer ce caractère hydrophobe. Le premier exemple connu, j'ai mis ici un biberon pour symboliser le lait. Bien, le lait, c'est une nano-dispersion, c'est une nano-émulsion, mais qui est blanchâtre. Et lorsque l'on arrive à disperser, à obtenir des gouttes de plus en plus petites, à un moment donné, on arrive à avoir des suspensions qui sont complètement translucides. Et donc aujourd'hui, c'est relativement facile à réaliser. Je ne sais pas où est-ce que ça perce. Donc on a des suspensions translucides avec des ultrasons. Il suffit d'appliquer des ultrasons dans un mélange eau-huile pour arriver à un moment donné à avoir une suspension translucide. Alors l'exemple dans la vaccination, eh bien, c'est un produit mis au point aux États-Unis qui est un mélange assez complexe, huile de soja, alcool, eau, détergent, et qui a été utilisé dans la campagne de vaccination, non pas en France, mais en Amérique du Nord, contre la grippe A notamment, et c'est une vaccination qui se pratique par voie nasale. Donc un principe relativement différent du principe français. Mais donc il faut savoir que ces produits-là sont utilisés de façon classique pour la vaccination et d'autres applications. Alors par contre, je me suis penché sur quelque chose qui est en développement et vous voyez que c'est une annonce récente, avril 2010, faite par Mark Kendall en Australie. C'est un nouveau procédé de vaccination qui est en test, qui a été essayé sur la souris. Et vous voyez que c'est un nanopatch. Donc on n'est pas vraiment dans le domaine du médicament dans ce cas-là. Hein, on est dans le domaine du dispositif médical qui comprend 400 aiguilles, donc très très petites, qui permet d'utiliser beaucoup moins de vaccins. C'est indolore, c'est juste une application. Ces aiguilles ne rentrent pas très profondément dans la peau. L'avantage, c'est que ça touche des cellules dendritiques qui sont présentes sous la surface de la peau et qui sont responsables de la réponse immunitaire. L'intérêt aussi, c'est qu'on n'a pas à conserver à froid ces nanopatchs et que l'application est très rapide. Donc il est probable, je dis bien probable, parce qu'il peut y avoir peut-être des incidents de développement ou des problèmes économiques, que sais-je. Je suis assez bien placé pour savoir qu'un produit, ça ne va pas sur le marché comme ça directement, même si l'idée est géniale. Mais j'ai trouvé intéressante, cette application dans le domaine de la vaccination. Alors j'avance pour arriver à la cosmétique. Vous avez vu que c'est en cosmétique que l'on a le plus d'applications, le plus de produits sur le marché à base de nanotechnologie. On va dire que de nombreux produits contiennent des nanoémulsions et d'autres composés qui s'appellent des liposomes, qui sont des sphères qui apparaissent ici en microscopie, donc de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, voire quelques centaines de nanomètres. Les liposomes sont constitués de membranes reconstituées, donc dans ce cas-là, eh bien, on va avoir une dispersion avec des huiles, par exemple l'huile d'argan qui est classiquement utilisée en cosmétique. L'intérêt, donc, c'est de protéger les composés protéger les huiles, protéger un certain nombre de produits qui pourraient s'oxyder par contact à l'air et d'avoir des émulsions qui peuvent s'appliquer facilement à la surface de la peau. On va dire qu'en termes de danger potentiel dans le cadre des nano-émulsions des liposomes, ce danger est relativement limité puisque ce sont des produits qui se détruisent facilement, y compris la surface de la peau, donc ils ne vont pas rentrer en tant que tels dans la peau. Donc là, on va dire que c'est peut-être pas là que se situent des problèmes potentiels. Par contre, il y a de nombreux produits solides qui sont ajoutés dans les produits cosmétiques et dans les crèmes solaires, et notamment tous les écrans anti-UV sont basés sur une seule et unique technologie, c'est la présence de nanoparticules, en particulier de dioxyde de titane, voire de dioxyde de sélénium. Le dioxyde de titane a une propriété intéressante qui fait que c'est utilisé largement en cosmétique. Lorsque sa taille est de l'ordre de 300 nanomètres, donc on est au-dessus de la forme nano, on est sur une forme micrométrique, le dioxyde de titane donne une couleur blanche, donc les produits sont blancs dans ce cas-là. Et vous devez vous rappeler que les premiers écrans anti-UV donnaient d'ailleurs cette apparence blanche. Et finalement, ça ne plaisait pas beaucoup. Et du coup, on a diminué la taille des particules qui sont utilisées et on est en plein dans les nanoparticules. Et du coup, cette fois-ci, on a un effet... les produits sont translucides et donc ont toujours le même effet anti-UV, mais par contre, ne laissent plus cette apparence blanche et sont plus acceptés par le public qui, évidemment, ne sait pas qui s'envoie sur la peau des nanoparticules qui peuvent éventuellement, elles, pénétrer puisqu'on est, on est en face de produits à caractère solide. Je passe maintenant à l'alimentaire pour vous dire que dans l'alimentaire, il faut distinguer deux types d'applications. Celle qui concerne les matériaux d'emballage, au contact ou non des denrées alimentaires. Alors, on va dire que c'est quasiment indifférencié, mais c'est le cas aussi de matériaux qui sont directement au contact. Et on va essayer de retrouver des propriétés ici que j'ai déjà évoquées. Propriétés de résistance à la rayure notamment, contrôle de la mouillabilité, donc c'est toujours la propriété d'hydrophobicité qui est recherchée, des surfaces auto-nettoyantes et le caractère antimicrobien. Donc c'est en résumé exactement ce que j'ai évoqué dans d'autres domaines d'application industrielle. On va dire que là, il n'y a rien de neuf, sauf qu'on va se trouver éventuellement au contact direct de denrées alimentaires. Dans la matrice elle-même, on va dire que l'effet principal qui est connu, c'est l'effet anti-agglomérant qui touche notamment le sucre. Et là, c'est utilisé depuis très très longtemps. Ce sont des nanoparticules de silice qui sont utilisées pour leur effet anti-agrégant. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que vous en trouvez aussi dans presque toutes les vinaigrettes industrielles, notamment lorsqu'elles ont cette apparence blanche. Eh bien, c'est dû à la présence de nanoparticules qui donnent cette apparence blanche. Donc, vous avez des effets texturants dans un cas, des effets de coloration. Vous en avez dans le ketchup. Donc, ce sont des effets fluidifiants qui sont recherchés. Ça, ce sont les premières propriétés dans la matrice alimentaire. Deuxième propriété, ce sont des propriétés d'encapsulation, comme celles que j'ai évoquées à propos de la cosmétique. Là, ça concerne un domaine particulier qui est celui des compléments alimentaires. Et là, on est un peu bizarrement dans un effet inverse. Comme pendant longtemps, ça faisait très bien d'annoncer des propriétés nanotechnologiques, tous ceux qui se sont penchés sur la question se sont aperçus qu'en réalité, il n'y avait pas tellement de caractère nano dans ce cas-là. Et finalement, dans ce domaine du complément alimentaire qu'on peut discuter pour d'autres aspects, c'est certainement pas le côté nanotechnologie qui est inquiétant. En tout cas, ce qui est inquiétant, c'est que dans les rapports de l'AFCET que j'ai déjà évoqués, il est dit que dans le domaine alimentaire, le problème majeur, c'est que la traçabilité est très très difficile, elle est quasiment nulle, il y a très peu d'étiquetage, et donc aujourd'hui, on est face à un vrai problème, et il y aura sûrement des progrès à faire pour l'information du consommateur à l'avenir. Un mot sur des articles de sport, puisque je vous ai montré que c'était un domaine d'application relativement fort. Alors, je commence par des articles de sport. Vous avez ici un ballon de football, c'est pour vous rappeler que la Coupe du Monde est dans pas longtemps. Mais plus sérieusement, c'est que Les premiers composés qui ont été connus à base d'atomes de carbone, ce sont les fullerènes. Ici, vous avez 60 atomes de carbone, appelés bulky ball. Donc, ça rappelle vraiment un ballon de football. Et puis ici, vous avez les nanotubes de carbone qui, vous voyez, ont une dimension nanométrique ou deux dimensions nanométriques. Ici, une surface nanométrique, tandis que la longueur, elle, est indéfinie. Donc ici, on est face à un produit à caractère fibreux. Réellement. Tandis qu'ici, on est face à un produit, à un objet particulier. Alors, quels sont les domaines d'application? Eh bien, là, vous allez être aussi assez surpris. Les fullerènes sont utilisés dans les fards de ski, donc c'était les Jeux Olympiques il n'y a pas longtemps, et on a dit que les Français étaient très bons farteurs, ils devaient utiliser beaucoup de fullerènes dans ce contexte-là. C'est toujours le même effet que tout à l'heure, hein, ça permet de diminuer l'hydrophobie. Le caractère hydrophobe, donc d'accroître le caractère hydrophobe, pardon, et donc ça permet d'améliorer la qualité des fards de ski. Et puis dans un certain nombre de produits que vous connaissez, raquettes, cannes de golf, cadres de vélo, alors vous pouvez utiliser les trois éventuellement, et vous êtes cette fois-ci en présence de nanotubes de carbone, avec comme propriété, et il est clair que pour ceux qui ont déjà pratiqué du tennis ou qui ont fait du vélo il y a longtemps, les matériels ont évolué fortement dans le sens de la légèreté et de la résistance. Ça paraît clair. Alors ce qu'on connaît moins, c'est cet aspect-là. Ça, c'est pour les tennismen. Et je peux citer la marque parce que c'est, je pense, déposé et peut-être même le brevet est tombé depuis longtemps. C'est la marque Wilson qui, la première, est arrivée sur le marché avec des balles à pression. Et ces balles qui avait une pression, et d'ailleurs c'est aujourd'hui utilisé un peu tout le temps, garder leur pression très longtemps. Et le secret, ce sont des nanofeuillets d'argile qui sont dans le revêtement extérieur et qui empêchent donc le départ de l'air qui est dans les balles. Donc vous voyez que on a vraiment des applications dans de nombreux domaines et très, très variés. Alors j'essaie de finir toujours par rapprocher science et art, industrie et art. Alors, je finis par ceci, et je sais que la présentation suivante démarrera aussi sur l'évocation des vitraux, pour dire que bon, ben, les nanotechnologies, ce n'est pas une histoire très récente, puisqu'au Moyen-Âge, dans la constitution des vitraux, il y avait l'introduction de nanoparticules d'or. Évidemment, ceux qui faisaient les vitraux ne savaient pas qu'il y avait des nanoparticules. Néanmoins, les utiliser, selon la taille des nanoparticules, eh bien, on a des couleurs différentes. Et donc c'était à la base des vitraux. Je ne résiste pas au fait de vous remontrer des liposomes. Je les avais montrés déjà une fois précédemment. Ici, vous avez un magnifique poster vous présentant divers liposomes avec donc des constitutions différentes en termes d'acides gras qui sont incorporés dans ces liposomes et de phospholipides incorporés dans ces liposomes. Ce sont des images, bien sûr, obtenues par microscopie, donc ce n'est pas tout à fait la réalité. Et là, je renvoie toujours à ce site Science in Your Eyes parce que j'ai eu un très bon contact avec eux. Ils m'ont autorisé à présenter leur poster. Et je finis là aussi sur le site que j'ai évoqué tout à l'heure, qui réellement vous donne, qui est un site américain, qui vous donne, vous pouvez taper le nom d'un produit et vous allez savoir si ce produit est classé dans les nanotechnologies. Et puis vous allez avoir un certain nombre de détails à propos de ce produit. Alors pour terminer complètement, vous voyez qu'au travers de ce panorama relativement rapide que je vous ai donné, et qui n'est pas allé dans le détail bien évidemment, on va concevoir que pour le monde industriel, vous allez avoir plusieurs catégories d'industriels. Vous allez avoir les industriels qui conçoivent les nano-objets que je vous ai présentés, des nanotubes de carbone, par exemple, c'est la spécialité d'Arkema en France, qui a construit une usine dans ce sens. Les nanoparticules pour la cosmétique, c'est Rodia, depuis très très longtemps. Et puis vous avez donc les assembleurs qui vont récupérer ces nano-objets, les incorporer dans des matériaux composites, donc les fabricants automobiles, évidemment. Donc vous avez un monde industriel, vous avez des industries très différentes qui sont concernées par les nanotechnologies. Et évidemment, tous les consommateurs sont concernés aujourd'hui. Et il est clair qu'on est loin, lorsqu'on fait ce type de présentation, des nanosciences dont on a parlé, il y a 2 mois ici, puisqu'on s'aperçoit que finalement, on est en train d'utiliser ces produits très très largement, sans beaucoup de retenue. Et je crois sincèrement que aujourd'hui, le débat qui a lieu en France, cette information que l'on apporte, tout cela est légitime et ça doit aboutir à de nouvelles réglementations. Mais si Stéphanie Lacour, qui doit nous rejoindre, n'est pas coincée par des problèmes de train, je pense qu'elle abordera cet aspect-là dans l'après-midi. Voilà, je vous remercie.
Merci. Bien, avant de passer la parole à la salle, une question, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire. En ce qui concerne les normes, est-ce qu'il y a des systèmes de normes qui vont être mises en place ?
Alors, donc, la problématique de fond de toute cette histoire, c'est que on n'a pas été habitué à définir des normes relatives à la taille des composants d'un produit, puisque dans tout étiquetage figure la nature chimique éventuelle, mais rien au niveau de la taille. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'était pas à l'échelle nanométrique, finalement, on n'avait pas de différence de comportement physique, chimique. On n'avait pas une réactivité différente. Il est clair, par exemple, quand on prend le cas du dioxyde de titane, en changeant d'échelle, on a une nouvelle propriété qui apparaît. Donc ça, c'est, on va dire, le problème numéro un. Alors, je suppose qu'avec le remue-ménage actuel, on va avoir des normes, mais pour moi, la difficulté essentielle dans ce secteur comme dans d'autres, c'est que finalement, les normes arrivent pour des produits existants, éventuellement pour définir quelques produits à venir, et puis il va y avoir de nouveaux développements technologiques qui, eux, risquent de ne pas être concernés par les normes, et on va avoir, un peu comme dans le cadre des lois de bioéthique, on va prendre 10 ans de retard par rapport à la réalité du jour. Bon, c'est peut-être la règle du jeu qu'il va falloir suivre. Le pire serait qu'il n'y ait pas de normes du tout, comme c'est apparemment le cas aujourd'hui. Et en réalité, la norme, elle est presque imposée par le public, puisqu'on voit qu'en cosmétique, elle est imposée, mais c'est dangereux. En cosmétique, il y a quelque temps, on annonçait le terme nanotechnologie, voire nanoparticules, parce qu'il y avait un caractère technologique qui était intéressant en termes de marketing. Aujourd'hui, on ne voit même plus cet aspect-là. Donc il va falloir que la norme impose un étiquetage réel dans les produits à l'avenir.
Oui, pour rebondir sur ce débat de normes, faut-il une norme ou faut-il plutôt une autorisation de mise sur le marché ?
Alors bon, évidemment, l'autorisation de mise sur le marché, on est dans le domaine du médicament. Je crains, par exemple, que dans un cadre automobile ou pour une raquette de tennis, on n'ait jamais d'autorisation de mise sur le marché, parce que vous savez comme moi que l'autorisation de mise sur le marché, ça n'est pas tellement cet acte-là qui est l'acte le plus cher, c'est tout ce qui précède. Et donc, dans le cadre du médicament, ça justifie en partie, en tout cas, les coûts, puisqu'on sait calculer parfaitement que pour développer une molécule, la mettre sur le marché et obtenir son autorisation, aujourd'hui, on dit c'est 1 milliard d'euros. Donc, c'est à mettre en regard d'un marché derrière. Est-ce que lorsque vous allez avoir affaire à un produit de grande consommation, l'autorisation de mise sur le marché sera supportée ou acceptée, je n'en sais rien. Vous avez peut-être raison sur un plan théorique, je dirais sur un plan pratique. Je crains que pour la majorité des produits, ça ne soit pas le cas et qu'on reste confiné aux produits de santé. Je vous suivrai assez sur tout ce qui touche à des produits, par exemple, en contact avec la peau. Alors, un des domaines clés, c'est la cosmétique. Or, si aujourd'hui on mettait un surcoût énorme à la cosmétique, évidemment, on casserait un marché.
Je me suis peut-être mal fait comprendre. Effectivement, j'ai employé la notion d'autorisation de mise sur le marché, qui a une connotation effectivement très fortement médicament. Ce que je voulais dire par ce biais-là, avant même d'imposer une norme, parce qu'on voit bien que le terme nanotechnologie ou nanomatériaux, c'est un terme générique, global, et que selon la nature chimique et selon la taille des particules, il y a à minima ces deux paramètres à prendre en compte. L'exemple des vitraux d'or est typique. Selon la taille de la particule, pour une même substance chimique, on a des propriétés différentes, et inversement, évidemment, à taille identique, selon la nature chimique de la particule, on va avoir des propriétés également différentes. Donc on voit bien qu'il y a ces deux aspects-là qui doivent être pris en compte, à minima. Quand j'ai voulu parler d'autorisation de mise sur le marché, c'était plutôt, et c'est un peu le débat qu'on a eu avec William Dabb quand il était venu la dernière fois, c'était de dire que finalement, face à tout ça, et face notamment au problème de traçabilité, parce qu'il y a aussi les problèmes de métrologie, et en particulier les métrologies dans l'environnement, moi je me situe plutôt sous cet aspect des choses, eh bien on est face à un vide sidéral, et donc peut-être que la seule façon à la fois d'assurer une acceptabilité sociale sur un certain nombre de nanomatériaux ou de nanotechnologies, et de l'autre côté d'éviter des dérapages environnementaux ou sanitaires qui aboutiraient à une crise générale de ces nanosciences, eh bien, ce serait de mettre en place ce qu'on appelle le principe de justification, c'est-à-dire que avant de mettre sur le marché un certain nombre de technologies ou de matériaux, qu'on ait fait la preuve de l'efficacité sociologique, si je puis dire, alors tant sur le plan sanitaire que sur le plan des biens de consommation, etc. Alors, expertise sanitaire, expertise sociale, expertise environnementale, expertise de tous ordres. Voilà, c'est cette notion de justification que j'avais globalisée abusivement, je le reconnais, sous le terme autorisation de mise sur le marché.
Je vous suis complètement sur, par exemple, l'exemple des chaussettes, pour reprendre cet exemple-là. Je pense que typiquement, là, c'est celui qui frappe le plus, quoi. Quel est l'intérêt de mettre sur le marché, pour la société, quel est l'intérêt de mettre sur le marché un produit comme celui-là? Alors derrière, il y a deux questions. Un, il faut mettre en place une ou des agences spécialisées, ou bien alors donner de nouvelles fonctions aux agences existantes, type AFSA, AFSET, etc. Ça, c'est une première réponse. La deuxième, elle est plus embêtante, c'est que, vous le savez aussi bien que moi, on est dans un monde où les produits circulent presque librement. Et donc, comment fait-on en termes de réglementation mondiale, en opposant toujours la même problématique, la réglementation asiatique étant très déficiente par rapport à la réglementation européenne, etc. Donc, on est dans un débat où théoriquement, et on ne peut pas dire que l'on est dans un monde isolé en France. On a eu l'histoire de Tchernobyl, etc. On peut prendre des tas d'exemples qui font que il faudrait vraiment des accords internationaux très forts. Et je ne sais pas si on est capable d'atteindre cet état-là. Alors, est-ce que c'est une raison pour ne rien faire? La réponse est sans doute non. On a aussi tous les exemples sur les OGM où les positions étaient très différentes. Et finalement, on va dire qu'il y a eu un effet au niveau français, voire européen.
Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, l'une des industries premières utilisatrices de nanoparticules d'argent, à savoir les industries pharmaceutiques en ce qui concernait les pansements à la fin des années 80 et 90, je ne sais pour quelle raison aujourd'hui, si vous voulez, obligatoirement mettent sur l'affiche posologique la quantité de nanoparticules d'argent par millimètre carré de pansement. Et c'est tout nouveau. Il y a encore un an, on ne les avait pas. Maintenant, on ne connaît pas le seuil de toxicité ni le seuil thérapeutique. On ne sait pas. Donc, peut-être qu'il faudrait arriver, si vous voulez, à quantifier, à quantifier par type d'objet ou de type de produit selon les industries, les quantités de nanoparticules, soit par poids ou soit par, surface à poser ou utiliser. Et à partir de là, peut-être définir des seuils de toxicité. Mais pour ça encore, il faudrait des organismes ou donner des compétences nouvelles.
Oui, tout à fait. Mais sachant quand même que dans ce domaine-là, les produits qui arrivent sur le marché ont fait l'objet d'études de toxicité obligatoirement, même s'ils ne sont pas classés dans le domaine du médicament. Par exemple, les pansements font l'objet d'études de toxicité.
Quelles sont les études de toxicité qui sont menées?
Relativement peu. On a eu un exposé, là aussi, il y a deux mois, disant qu'il y avait à peu près 1% ou 2% des crédits qui étaient affectés aux études de toxicité et 98% à l'efficacité. Donc vous voyez qu'on est loin du compte.
Mais
en dehors du médicament, bien évidemment. Oui.
Elles sont effectuées sur quoi? Des animaux, des cellules?
Un peu de tout. Oui. Oui. Animaux et cellules. Oui, oui. Oui, avec des modèles qui sont critiquables, hein, je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, je m'étais penché sur la question de la toxicité. Il y a des modèles très anciens. Vous avez certains poissons qui sont des témoins, etc. Alors, bon, si vous voulez qu'on fasse un débat sur les modèles animaux, on pourra le refaire. On aura une journée là-dessus. Quelle date, Anne ?
Au mois de février.
Non, avant. Novembre. Et c'est vrai que c'est un problème. Je suis là aussi tout à fait d'accord.
On aura une journée d'études sur l'expérimentation animale le 18 novembre. Voilà.
Autre sujet chaud.
Très. Donc encore deux questions, puis après on arrête. Ou trois, monsieur ?
Oui, excusez-moi, pardon. Hein. Je crois qu'il y a eu justement dans les études de toxicité une alarme de certains scientifiques en disant que c'était très toxique et beaucoup plus toxique que des particules plus grosses et que le risque était important au niveau... chez les animaux, il y avait des intoxications très sévères au niveau du foie, du cerveau, du rein, etc., et pulmonaire. Et au niveau des cellules également, même allant jusqu'à des atteintes de l'ADN. Donc c'est quand même très grave si on n'a pas fait d'études plus complètes que ça, notamment pour ce qui se trouve au niveau des aliments, au niveau des vaccins, ou au niveau de ce qui est mis sur la peau, comme les cosmétiques. Et vous parliez de produits pour les enfants. Là, je suis sidérée. C'est
la réalité, hein. Je n'ai rien inventé.
Non, mais je comprends bien. Mais je trouve que c'est effrayant. C'est bien d'être pour le progrès, mais il faut quand même toujours rester vigilant vis-à-vis des effets secondaires. Et là, on a l'impression que rien n'a été fait.
Alors, je vais vous répondre de deux façons, et je ne suis pas normand. La première, c'est que, je répète, effectivement, il n'y a sûrement pas eu assez d'études de toxicologie. La deuxième, et là, je réponds en tant que scientifique, je me méfie de la citation qui dit « il y a eu un effet sur une cellule donnée », parce que je sais que vous prenez des cellules en culture et vous allez montrer un effet de n'importe quoi, y compris, allez, je vais le dire en plaisantant, des molécules d'eau, éventuellement. Donc, je suis pour des études de toxicologie, mais faites au minimum selon les règles de la pharmacie, avec des témoins, etc. Même si ces études en pharmacie sont critiquables, parce que les modèles ne sont pas toujours les bons, néanmoins, il faut une rigueur absolue. Et dans ce que j'ai lu, mais je n'ai pas fait de lecture exhaustive, je dis que malheureusement, souvent, ce sont des citations d'articles, etc. Donc vous avez 3-4 citations d'affilée. Donc mon problème, c'est de remonter à la littérature et d'avoir des essais qui sont faits vraiment dans des conditions où vous avez une étude témoin à côté, etc. Alors après, démontrer des effets sur de l'ADN, etc., c'est vrai, ça a été démontré. Mais encore une fois, par exemple, les effets sur l'ADN ont été démontrés sur des cellules en culture seule. Or, quand vous recevez un produit, évidemment, vous avez des tissus, etc. Alors, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas être toxique. Néanmoins, il ne faut pas non plus partir de ces études-là pour dire qu'absolument le danger est majeur. Parce que derrière, il y a une notion de dose. Ça aussi, c'est la leçon des médicaments qu'il apprend. Toute molécule est toxique. Tout dépend de la dose. Donc, vous avez une relation dose-effet. Et donc, tout est là. Ceci dit, il faut s'alarmer. Je suis d'accord avec vous.
Il y a encore une question.
Oui, bonjour. J'ai ici la casquette Association de protection de la nature et de l'environnement. Et quand vous avez évoqué tout à l'heure le nano-argent qui va être disséminé pour les chaussettes, par exemple, moi, ça me dit quelque chose parce qu'effectivement, au lavage, ça part relativement vite, ça va être disséminé. Alors, peut-être l'un des premiers problèmes, ça va être la présence de ce nano-argent bactéricide dans les stations d'épuration, lesquelles fonctionnent grâce aux bactéries qui dégradent la matière organique. Donc là, grand point d'interrogation quand même, si ça se généralise. Moi, ce qui me frappe dans votre exposé, c'est votre inventaire à la Prévert, c'est qu'effectivement, coexiste dans ce domaine de nanotechnologie une grande part de connaissances très pointues, scientifiques, etc., puis une grande part d'ignorance. Alors, sans remonter aux vitraux qui sont encore là sur la diapo, où effectivement les gens qui utilisaient ça ne savaient pas que c'était des nanoparticules, on tient actuellement le consommateur, puisque finalement c'est lui, hein, au bout de la chaîne, tous ces produits sont fabriqués pour le consommateur, d'une façon ou d'une autre. On le tient dans la plus grande ignorance. Et ça, c'est très grave.
Et oui, parce que on a malheureusement, fâcheusement, des exemples historiques comme l'amiante. Et il faut rebondir quand même, je rejoins un petit peu ce que disait madame, c'est-à-dire qu'il y a peu de certitudes pour l'instant sur les effets délétères. Par contre, en ce qui concerne les nanotubes de carbone, là, ça y est, je pense que les dernières publications ont bien montré que les nanotubes de carbone ont un effet asbestos-like, c'est-à-dire c'est comme l'amiante. Or, c'est très répandu. Oui, alors, tant que c'est dans une matrice, c'est très bien. Avec l'usure des produits, ça se retrouve dans l'environnement. Et bon.
Oui, excusez-moi, juste pour vous dire que ce problème-là est majeur sur les sites de production, notamment.
Bien sûr, en premier.
Et que, notamment en Chine, donc, il y a des accidents qui ont été rapportés,
exactement,
sans doute en exactement liaison avec les sites de production. Oui.
Alors, pour terminer, juste une petite chose, c'est que, ça va, c'est souhaitable, évoluer l'information. La dernière loi votée, le Grenelle de l'environnement 2, là, qui a beaucoup fait discuter, on a parlé de beaucoup de recul, etc. Moi, j'y vois quand même des côtés positifs. Et en ce qui concerne la nanotechnologie, l'obligation maintenant qui va être faite à tous les fabricants, utilisateurs, distributeurs, de déclarer. Ce qui n'existe pas pour l'instant, vous l'avez dit vous-même, aucun inventaire en France. Bon. Alors, c'est un premier pas. Et en tant qu'association de protection nature, on s'intéresse au problème France Nature Environnement, qui est la Fédération Nationale, depuis à peu près 2006. Et notre position, c'est pour tout ce qui concerne les nanoparticules en contact direct avec le corps, à l'exception bien sûr des médicaments, parce que ça c'est autre chose. Nous on demande, alors c'est peut-être pas très réaliste parce que c'est un coup parti, un moratoire pour ces produits-là. Tant qu'on ne sait pas. Bon, alors c'est un petit peu, oui, utopique, hein, mais n'empêche que c'est pour attirer l'attention. Et en tout cas, un étiquetage.
Oui, vous avez d'ailleurs été suivi en partie par l'AFSET, parce que j'ai suivi leur rapport entre 2008 et 2010. Ça a évolué très fortement. Et je pense que ça se rapproche de vos positions, en tout cas en ce qui concerne l'étiquetage.
Pour le problème de l'étiquetage, c'est qui le lira, comment le lira, sera-t-on capable,
comment
de
ça
lire,
sera libellé,
sera-t-on
ça
capable de l'analyser. Enfin, j'ai cru entendre que dans des supermarchés suisses, il y avait une loupe avec le caddie. Donc je crois que ça sera peut-être utile chez nous aussi, mais ce n'est pas une blague, ce n'est pas une blague suisse. Est-ce qu'il y a une dernière question, madame? Vous avez déjà des gens qui n'ont pas parlé, peut-être, parce que, voilà. Excusez-moi, mais le temps de parole est...
Juste par rapport à ce qu'on a beaucoup évoqué, le problème de dispersion, est-ce qu'on a, aujourd'hui, est-ce qu'on dispose de moyens techniques pour, dans dispersion dans l'air ou dans l'eau, pour suivre des nanoparticules, comme on fait avec les particules de moteur à diesel ou
La réponse est non, malheureusement, parce que... Alors, si on se réfère aussi à la journée sur les nanosciences, quand on voit les outils dont on a besoin pour étudier ces objets-là, non, on ne les a pas sous la main. Alors, ça veut dire que là aussi, il y a un effort technologique pour l'analyse de ces produits qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'y faire face. Hein. Donc, souci numéro un, c'est en gros aussi le gros problème de l'alimentaire, puisque là, la traçabilité est quasiment impossible. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de déclaration... personne n'est capable d'aller retrouver facilement, en tout cas, ces nano-objets. Qui peut savoir que dans le sucre, il y a des nanoparticules de silice? Si on ne vous le dit pas, vous ne savez pas. Hein. Je vais céder le micro, peut-être.
Oui. J'ai le plaisir d'accueillir Noël Magnéa, qui est docteur en physique du solide à l'université Joseph Fourier de Grenoble, qui est physicien des conducteurs au CEA depuis 1982 et qui est actuellement en charge de la prospective scientifique à la direction de la recherche technologique au CEA à Grenoble. Donc il va nous parler de l'apport des nanosciences et des technologies pour le diagnostic précoce et le traitement du cancer. Donc, je vous laisse la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité ici à Poitiers donc pour présenter un certain nombre de, je dirais, de choses autour de ces nanotechnologies et leurs applications donc, dans la thérapie du cancer, aussi dans le diagnostic précoce. Donc effectivement, comme c'était annoncé, je suis plutôt un physicien, donc je ne suis pas du tout un spécialiste de la chimie, de la biologie, donc je vais rester à un niveau assez bas. Mais je vais essayer de montrer effectivement comment ces nanotechnologies dont on parle tant aujourd'hui, cette nanoscience, peut-être contribuer à améliorer et peut-être à vaincre un jour le cancer de façon acceptable par, je dirais, par l'ensemble des personnes. Donc en guise d'introduction, en fait... Je vais me baser sur, je dirais, sur un objet d'une technologie, je dirais, courant. C'est en fait le test de grossesse. Et je vous montrer effectivement que c'est un objet qui met en jeu des nanotechnologies et qui a un certain nombre de points communs entre tous les objets et les effets là, que je montre ici sur ce transparent. Tout d'abord, je montre effectivement ce vitrail du Moyen-Âge. Ça a déjà été évoqué, donc je vais aller vite là-dessus. Ici, c'est une plaque de verre qui contient une solution colloïdale d'or, donc une émulsion avec de l'or qui a été dissous. Et ça date du 19e siècle. C'est Michael Faraday, que vous connaissez bien pour la cage de Faraday, un célèbre scientifique anglais très brillant, qui effectivement a montré que l'or, finalement, n'avait pas, quand il était en solution et qu'il avait une structure nouvelle, il n'avait pas la couleur classique de l'or que l'on connaît sur les bijoux, par exemple. Et ça avait été, en fait, c'est le premier, finalement, qui a fait un peu des nanosciences et des nanotechnologies d'une façon un peu contrôlée. Ensuite, un autre objet qui est en commun avec tout ça, c'est le ciel bleu, hein, le bleu du ciel, le blanc des nuages et le vert de lait. Et donc, et le test de grossesse aujourd'hui, qui est un objet courant, et peut-être demain, ce qui va conduire, de la même façon qu'on a ces tests aujourd'hui, avoir des tests pour la maladie d'Alzheimer ou éventuellement pour le cancer dans 10 ou 20 ans, ça reste à voir. Donc, voilà. Le point commun, en fait, en tous ces objets, tous ces effets, c'est que les matériaux qui sont mis en jeu sont quasiment de même nature. Ce sont des particules de très petite dimension, de taille nanométrique. Ici, c'est des nanoparticules d'or. Hein, donc, les maîtres verriers avaient des recettes pour fabriquer ces très belles couleurs. Donc, ils changeaient la composition, ils mettaient de l'or, du fer, ils changeaient les couleurs. Donc, ces couleurs qui durent des siècles sans altération. Donc, ici, on a aussi des nanoparticules d'or qui sont dans une émulsion colloïdale. Dans le bleu du ciel ou le blanc des nuages, là aussi, ces deux physiciens, Rayleigh, physicien anglais, et Mie, physicien allemand, ont montré en fait que l'origine de ce, finalement, du bleu du ciel ou du blanc des nuages, en fait, c'était aussi dû à la présence de nanoparticules ou de petites molécules. Et dans le test de grossesse, là aussi, entre en jeu des nanoparticules d'or, donc qui vont permettre de faire la détection. Donc ça, c'est le premier point commun. Le deuxième point commun, c'est qu'il y a un effet physique générique dont je vais expliquer un peu plus en détail. C'est les interactions particulières qu'il y a entre ces nanoparticules qui rentrent dans tous ces objets avec la lumière. Ça, c'est un effet extrêmement important et ça reviendra de façon, je dirais, assez récurrente dans mon exposé. Donc ici, je vais expliquer un peu rapidement ce mécanisme, c'est la diffusion de la lumière. En fait, c'est quand vous envoyez une source, un rayonnement lumineux sur une particule, en fait, on a un phénomène qui s'appelle la diffusion, c'est-à-dire que la lumière qui est ici incidente peut être réémise dans toutes les directions et suivant la taille des particules qui diffusent, on a des effets qui sont très différents. Si les particules sont petites, je dirais quelques nanomètres, ça peut donner donc à lieu à ces couleurs chatoyantes des vitraux, ou ça peut donner, quand c'est des molécules, les molécules qui sont dans l'atmosphère, qui composent l'atmosphère, à ce rayonnement bleu, c'est-à-dire qu'on a un rayonnement, donc une diffusion préférentielle de certaines couleurs hein, du spectre solaire. Pour des molécules, par exemple d'azote ou d'oxygène, c'est plutôt le bleu qui va être diffusé de façon intense, ce qui explique que le ciel est bleu. Par contre, si on regarde des particules qui sont plus grosses, et ça avait déjà été évoqué dans l'exposé précédent, donc des particules de quelques microns, ça peut être des gouttelettes d'eau qui forment les nuages. Dans ce cas-là, la lumière, toutes les couleurs sont diffusées de la même façon. Hein. Donc, en fait, on a une sorte d'émission dans le blanc, hein, puisqu'on reconstitue la lumière blanche en faisant la somme de toutes ces couleurs. Donc, les nuages sont blancs Et de la même façon, l'émulsion dans le lait, donc émulsion qui comprend des microparticules, par exemple, de lipides, donne lieu à cette couleur blanche. Donc là, voilà, ça explique brièvement quel est ce phénomène qui va être extrêmement important, d'ailleurs aussi dans les aspects diagnostiques que je présenterai après. Donc dans la lame de Faraday, ça c'est la lame originale qui date du 19e siècle, vous voyez, elle a toujours conservé sa belle couleur pourpre. En fait, Faraday donc, avait présupposé qu'il avait des particules d'or de petite dimension donc, qui étaient dispersées et qui donnaient lieu à cette couleur rouge ici, qui est montrée là dans ce petit flacon. Et sa découverte importante, qui va beaucoup nous aider par la suite, c'est que lorsqu'il mettait un produit chimique qui permettait d'agglomérer ces particules, donc en fait, il passait du rouge au bleu. En fait, ça, c'est simplement au fait que quand les particules sont isolées, dispersées, ça diffuse dans le rouge. Et lorsqu'on a on agglomère, on fait l'équivalent d'une particule qui va être plus grosse, on a quelque chose qui tend vers le bleu. Et ça, en fait, c'est ce mécanisme qui peut être aussi, qui va être utilisé dans le test de grossesse. Donc, brièvement, comment ça marche ? L'idée ici, c'est d'avoir un test, donc c'est de détecter en fait une hormone, c'est l'hormone ACG, qui est la molécule messagère de l'anidation, c'est-à-dire qu'on a un embryon qui se divise pendant les 5 premiers jours et qui ensuite va se fixer sur la paroi de l'utérus. Et à ce moment, donc, on a émission, donc un signal, l'émission d'une hormone qui avertit le corps qu'il faut qu'il se prépare effectivement à une grossesse. Et l'objet du test de grossesse, c'est de détecter cette hormone. Alors comment on va faire, en fait, c'est que on a donc cette hormone que je vais représenter ici de façon très schématique. Il existe un corps que les chimistes et les biologistes connaissent bien maintenant, qui est une sorte un anticorps, ce qu'ils appellent une anti-hormone, qui peut s'associer préférentiellement avec l'hormone. Ça donne un peu ce petit montage-là. C'est-à-dire qu'on a une reconnaissance parfaite entre l'hormone et son anti-hormone. Et finalement, ça ressemble un peu à une clé qui trouve la serrure. Et il y a seulement cette clé qui peut ouvrir la bonne serrure. Et ça, c'est un mécanisme, cette reconnaissance moléculaire qui va être très, très important pour effectivement faire dans la thérapie du cancer et aussi dans son diagnostic. Donc voilà en fait le principe de base donc du diagnostic. Ensuite, comment ça marche ? Donc on va faire appel aux connaissances des physiciens, des chimistes et des biologistes. Donc le physicien, il va fabriquer des particules, ça, des particules d'or. Les chimistes et les biologistes, ils maîtrisent parfaitement ces objets. Donc on va mettre dans une solution les nanoparticules d'or. Et ensuite, on va coller en surface une colle, donc ça, c'est un produit chimique que les chimistes connaissent bien, pour pouvoir faire du greffage moléculaire de l'anticorps. C'est pour arriver à ça. Donc, on est capable, de coller un anticorps sur cette nanoparticule, donc cette image-là de la greffe. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on observe, c'est qu'on a une couleur rouge, puisque les particules sont isolées dans la solution. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quand on met en contact donc, cette solution qui contient les particules fonctionnalisées, donc on a l'opération de fonctionnalisation, quand on les met en présence de l'hormone, ben, elles se reconnaissent, elles viennent se coller donc, sur notre nanoparticule qui a été fonctionnalisée. La clé a trouvé, la serrure a trouvé sa bonne clé. Donc là, les particules sont encore isolées, c'est toujours cette couleur rouge. Et si on attend un peu, toutes ces particules vont pouvoir maintenant s'agglomérer. C'est ce qui se passe ici. Donc, toutes les particules vont se coller. Et comme l'avait montré effectivement Faraday, on passe une couleur bleue. Donc, simplement en regardant comment évolue donc, cette solution du rouge vers le bleu, on peut donc attester s'il y a présence d'hormones ACG ou non dans les urines. Donc voilà, on a ici un peu ce mécanisme-là que je vais donc utiliser d'ailleurs dans toute la suite de mon exposé, qui montre bien comment un peu les technologies, les nanotechnologies, arrivent à faire un objet courant. Voilà, donc je rentre dans le vif du sujet cette fois-ci, donc, où je vais donc effectivement détailler un certain nombre de données sur l'apport des nanosciences et des nanotechnologies dans le diagnostic précoce et la thérapie ciblée du cancer. Donc, le plan de mon exposé, brièvement, je reviendrai sur les nanosciences et technologies, mais comme ça a été brillamment présenté par l'orateur précédent, je vais pouvoir aller vite. Quelques notions sur le cancer que vous connaissez tous. Et ensuite, donc, je vais développer donc, autour de l'apport des nanos pour la thérapie ciblée, le diagnostic précoce, et ensuite, je conclurai. Voilà. Donc, nanosciences et technologies, comme ça a été dit précédemment, c'est en fait une histoire finalement banale de dimensions. Hein. Donc on va un peu changer, passer dans un monde finalement où, qui va être ici. Donc là on a l'échelle, je dirais, classique, on a les objets de différentes dimensions. Et là le facteur de grossissement qu'il faudrait faire pour mettre par exemple un virus à la taille d'une balle de tennis, il faut multiplier grossièrement par un facteur de grossissement de 10 millions environ. Donc on voit qu'on travaille dans un monde de très petites dimensions. Et ce qui va nous intéresser, c'est ces dimensions-là, entre 10 et 100 nanomètres à peu près. Donc ce sont ces objets, hein, ces nano-objets, nano-systèmes, nano-composants que l'on va essayer de fabriquer et de maîtriser. Alors ce qui est intéressant, très intéressant d'ailleurs, que vous voyez, c'est que ça correspond typiquement aux tailles des virus, aux tailles des anticorps. Ici, on a la taille d'une cellule cancéreuse. On voit bien que c'est plus petit. Donc on comprend déjà à peu près qu'il faut travailler dans ces dimensions-là pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la cellule cancéreuse et pour pouvoir éventuellement la détruire ou avoir un certain nombre de connaissances là-dessus. Donc ça, c'est le domaine des nanosciences. Alors, on parle beaucoup de révolution des nanos depuis quelque temps, un peu moins aujourd'hui d'ailleurs. Moi, je dirais simplement, si je reprends un langage un peu 68art, finalement, c'est la somme plutôt d'un rêve. Hein, des rêves, il y en a toujours. Mais c'est plutôt une évolution, effectivement. Parce que si on regarde, finalement, si on part de Faraday, on peut considérer que c'est peut-être le père des nanosciences, c'est le 19e siècle. Donc, ensuite, c'est les ancêtres. Ensuite, il y a les pères, je dirais, des nanosciences. Ils n'utilisaient pas ces mots-là, bien entendu, à l'époque-là, mais c'est le début du XXe siècle. C'est la mécanique quantique, je dirais, avec les grands noms, prix Nobel, Schrödinger, Heisenberg ou De Broglie, qui permettent, vont nous donner les outils en fait, pour comprendre ce qui se passe dans ces échelles-là. La physique, la chimie moderne, je dirais, sort de cette période-là. Et puis ensuite, il y a les enfants, finalement, c'est ceux du début du XXIe siècle, qui vont utiliser tous ces savoirs pour accéder à ce monde des nanotechnologies. Donc c'est Richard Feynman qui a été prix Nobel en physique des particules dans un domaine très différent des nanosciences, mais qui a le premier, était un peu visionnaire sur les possibilités qu'on pouvait avoir à travailler dans cette dimension-là. Et là, j'ai mis deux prix Nobel français récents, donc c'est Jean-Marie Lenne, qui a été le prix Nobel de chimie pour tout justement dans le domaine de cette reconnaissance moléculaire dont j'ai parlé précédemment, et Albert Fert, prix Nobel en 2007, je crois, donc pour l'utilisation de tout ce qui est le nanomagnétisme pour faire des objets courants que vous connaissez bien, le stockage de données, le MP3, tout ça. Donc ici, finalement, on montre bien cette évolution, que ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Et je dirais que surtout les nanosciences, c'est plutôt la convergence finalement de toutes ces disciplines, la physique, la chimie, la biologie, la microélectronique, l'informatique, ces disciplines qui avancent depuis très longtemps à des vitesses différentes, avec des phases rapides. On est dans une phase rapide aujourd'hui. Bon, ça va se calmer, on va atteindre un plateau et on va consolider. Mais en tout cas, c'est vraiment, je crois, le point fort, c'est cette convergence. Et la convergence, effectivement, entre physiciens, chimistes et biologistes joue un rôle très important, je dirais, dans les thérapies peut-être modernes et futures du cancer. Voilà. Donc, le deuxième point, c'est le cancer. Donc, rapidement et brièvement. Donc, c'est une maladie complexe et très subtile. Bien entendu, je dirais que c'est un ennemi à battre qui est très intelligent, peut-être aujourd'hui trop intelligent pour nous. Là aussi, on parle de révolution dans le traitement thérapeutique de cette maladie. Le principe, vous le connaissez, simplement, c'est... On a un dysfonctionnement dans la division cellulaire qui résulte de mutations. Les origines sont variées. Ça peut être chimique, ça peut être radiologique, ça peut être aussi naturel. Donc, modification de l'ADN à l'intérieur des cellules qui entraîne des mutations. Et ces mutations peuvent, après différentes opérations, conduire à une cellule cancéreuse qui ensuite va se multiplier indéfiniment et conduire à des tumeurs. Donc, l'objectif des médecins, bien entendu, c'est de combattre tous ces... de connaître d'abord tous ces mécanismes qui sont en jeu. Ils sont nombreux, c'est la division cellulaire, c'est la vascularisation particulière des tumeurs, c'est la création de métastases, et on va chercher à intervenir dans tous ces domaines pour essayer donc de mettre fin à ces mécanismes. Donc l'objet, effectivement, est-ce que les nanotechnologies peuvent aider le médecin et surtout le malade, bien entendu, à vaincre le cancer? Donc là, j'aborde effectivement les apports potentiels des nanosciences et nanotechnologies donc, sur la thérapie ciblée. Donc je dirais un peu, je vais décrire ici la stratégie. Alors j'ai choisi une image qui est très militaire. Hein, donc vous voyez ici, j'ai mis une stratégie militaire. Mais je pense que ça peut peut-être vous permettre de comprendre assez facilement comment ça peut marcher. Donc la stratégie, c'est d'imager, donc de localiser l'ennemi. Donc ici, vous reconnaissez votre ville de Poitiers, ici, hein, vue de satellite. Et ça, c'est peut-être... Alors, je ne sais pas si l'espace Mendes France est ici, mais c'est, je dirais, c'est là qu'il faut taper. Hein. Donc, c'est la mairie. Bon, j'espère que le maire ne sera pas vexé. Hein, que je n'en veux, je n'en veux pas du tout. Hein. Voilà. Donc, c'est ici que l'ennemi est localisé. Donc, ça va être la première phase. Donc, on va utiliser, en fait, des nanoparticules pour faire de l'imagerie, pour localiser la tumeur, hein, bien entendu. Après, il faut que ce soit une cible visible. Donc, soit on va illuminer de façon spécifique la cible, soit cette cible va émettre un rayonnement, une information, on dirait, qu'on va pouvoir capter de l'extérieur pour pouvoir le localiser avec précision. Donc, ça, c'est important, ce ciblage. Et après, bien entendu, il faut avoir une action thérapeutique. Donc, il faut lancer un missile pour faire une frappe chirurgicale, c'est-à-dire que et éviter au maximum d'avoir des dégâts collatéraux trop importants. Donc, après avoir tiré le missile, il faut faire diagnostic, voir effectivement si on est allé au bon endroit, si on a détruit la cellule, la tumeur. Hein. Donc, à nouveau, il faut réutiliser les imageries. Et si ce n'est pas suffisant, il faut recommencer, envoyer des missiles jusqu'à ce qu'on ait atteint la destruction de l'objectif. Voilà. Donc, je dirais que c'est la stratégie qui va être utilisée. Et les nanotechnologies, les nanoparticules donc peuvent aider bien entendu le médecin et le biologiste à comprendre ce qui se passe et aussi à traiter le cancer. Donc pourquoi les particules et ces nanoparticules, je dirais, ces nanovecteurs sont très intéressants? En fait, c'est parce qu'ils ont la bonne dimension. Donc là, je vous remonte une partie là, de l'échelle qu'on a vue tout à l'heure. Ils se trouvent dans la bonne gamme de dimensions. Donc, dimension typique 10 à 100 nanomètres. Alors, pourquoi c'est intéressant? Ils ne vont pas franchir la barrière rénale, hein, c'est-à-dire quand ils sont injectés dans votre système sanguin ou lymphatique, donc, puisqu'ils ont des dimensions qui sont supérieures hein, donc, à 10 nanomètres, ce qui fait qu'ils vont avoir une bonne durée de vie dans votre organisme, ils vont pouvoir tourner un certain temps pour aller chercher la bonne cible. Hein. Ensuite, les chimistes, les biologistes savent bien les préparer maintenant, pour qu'ils puissent pénétrer les cellules, donc c'est le mécanisme d'endocytose qui est montré ici, hein. C'est-à-dire qu'ils vont être reconnus mais pas rejetés par une cellule, hein. Donc ils vont pouvoir, ici vous avez la membrane bilipidique là, d'une cellule, hein. Donc on peut avoir ce mécanisme, ils approchent ici, ils ne sont pas rejetés, ils vont s'entourer de cette petite gaine là, lipidique, ça ressemble d'ailleurs au liposome, j'en parlerai plus tard, et une fois qu'ils sont à l'intérieur de la cellule, eh bien, il faut qu'ils puissent injecter localement le médicament qui est contenu à l'intérieur de cette particule. Donc ça, c'est effectivement un effet important. Autre effet important, c'est qu'il peut être on peut avoir des charges très importantes en médicaments. Hein. On imagine que ça peut être 2000 fois, donc des centaines de fois plus efficace que l'injection classique de médicaments telle qu'on fait aujourd'hui. Et surtout, on peut mettre aussi plusieurs drogues là-dedans, donc avoir plusieurs cibles ou viser plusieurs mécanismes dans la cellule, dans la tumeur. Et d'autre part, on peut les protéger contre la dégradation, c'est-à-dire qu'on peut mettre des membranes lipidiques, on met aussi du PEG, polyéthylène glycol, autour de la nanoparticule pour qu'il ne soit pas rejeté par le système immunitaire, pour qu'il puisse effectivement survivre suffisamment longtemps dans l'organisme. D'autre part, comme j'ai dit, ils sont fonctionnalisables, on peut venir greffer, coller la bonne molécule dessus pour qu'il puisse aller vers la cible, ils sont multi-cibles. Ils délivrent localement le traitement. Et aussi, ce qui est important, ils sont identifiables après coup, c'est-à-dire que soit ils émettent ou ils sont sensibles à tout ce qui est mécanisme optique, donc à la lumière, soit du magnétisme, soit des propriétés électriques nouvelles. D'autre part, on a aussi une chance de notre côté, c'est que bon, dans le système vasculaire normal, donc ils ne pénètrent pas les vaisseaux sanguins, puisque ils ont des particules supérieures à 2 nanomètres. Par contre, le système vasculaire d'une tumeur, en fait, il est très perméable, il n'est pas parfait, ce qui fait que les nanoparticules de cette dimension-là vont pouvoir, il y a un certain nombre, de pores, de trous suffisamment gros pour qu'ils puissent se déplacer donc du système, par exemple, d'une veine d'art ici, pour aller vers la tumeur et ensuite la pénétrer et la détruire. Donc ça montre un peu les avantages principaux de toutes ces nanoparticules. Donc ces nanoparticules, maintenant, il faut les fabriquer. Donc il y a beaucoup de façons de les faire. En particulier, donc, les chimistes ont mis au point depuis pas mal d'années des techniques extrêmement performantes pour fabriquer ces nanoparticules. Donc ça paraît toujours assez simple, hein, c'est jamais très compliqué la chimie. Hein, vu de loin, on a des paillasses, on a des béchères, on chauffe un peu, on remue, on met des produits chimiques. Mais il y a tout un savoir accumulé depuis des siècles qui fait qu'on sait aujourd'hui faire par des mécaniques de précipitation finalement quand on met les bons produits. Ici, par exemple, c'est des composés du fer et des platines. On peut faire des nanoparticules fer-platine, ici, avec des dimensions nanométriques, dans un petit réacteur chimique. Donc, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir travailler sur différents matériaux. Donc, les matériaux principalement utilisés sont les métaux. C'est l'or, hein, dont on a beaucoup parlé. Ça peut être de l'argent, ça peut être du fer. Ça peut être aussi des semi-conducteurs qui sont utilisés beaucoup dans la microélectronique, bien entendu, mais qui aussi ont des propriétés intéressantes pour la propriété optique. Ça va être le silicium. Un matériau plus exotique, le sélénure de cadmium, ou ça peut être simplement du verre, des billes de silice. On sait ici, on voit une image de microscopie qui montre qu'on sait fabriquer ces nanoparticules qui ont des tailles très bien contrôlées en très grand nombre. Ça ne coûte pas très cher, d'ailleurs, ces méthodes, donc ça, c'est intéressant. Ici, c'est une image de microscopie électronique, donc d'une nanoparticule de platine qui fait 5 nanomètres, donc on sait les fabriquer. Et vous voyez ici, chaque petit point correspond à un atome. Donc, d'ailleurs, au passage, je voudrais dire que les nanosciences et les nanotechnologies ont profité effectivement de tous les développements des techniques de caractérisation qui permettent effectivement de contrôler ces particules. Et ça, c'est une image reconstruite, par ordinateur, qui permet de construire numériquement aujourd'hui des nanoparticules, hein, donc sur un écran d'ordinateur où on rentre les bons paramètres. Et ça, c'est très important parce que ça permet de prévoir les propriétés d'une particule sans avoir à la fabriquer, donc de gagner du temps, un peu aujourd'hui, comme on peut espérer, synthétiser un médicament, d'abord dans un ordinateur et ensuite le fabriquer pour éviter d'avoir toutes les étapes de screening qui sont généralement longues et coûteuses. Et ensuite, on va utiliser les propriétés physiques particulières, l'émission de lumière, le magnétisme ou les propriétés thermiques, comme je le montrerai ensuite. Ici, un exemple, je vais en parler parce que j'ai un peu travaillé dans ce domaine-là. Donc, c'est sur les propriétés particulières de ces nanoparticules. Ici, donc, on voit dans ces béchères, on a mis en solution des nanoparticules de sélénure de cadmium, donc un matériau semi-conducteur. Et ce qu'on remarque, c'est lorsqu'on éclaire ces différents béchères avec une source ultraviolette, ils émettent des couleurs différentes, du violet, du rouge, du jaune, du rouge. Et simplement, c'est qu'ici, on a des nanoparticules de très petite taille, 5 nanomètres. Et pour avoir du jaune, il faut 6 nanomètres. Et quand elles font 7 nanomètres, on a du rouge. En fait, ça, c'est extrêmement important parce que finalement, ce qu'on a, on a toujours le même matériau, mais on va avoir des sondes qui émettent différemment, hein, donc qui permettent de repérer des cibles différentes. Alors, comment ça marche ? Bon, je ne vais pas aller dans le détail parce que ça pourrait être un peu long, puis je pense que ça pourrait être un peu barbant. Ça résulte de ce qu'on appelle le confinement quantique. Et le mieux, c'est de faire finalement une analogie avec une corde vibrante d'une guitare. Donc, quand la corde, est grande, a une grande dimension, en fait, la fréquence de vibration de cette corde, donc la fréquence, les vibrations mécaniques et acoustiques sont dans le grave, hein, c'est des basses fréquences, et lorsque vous pincez la corde, hein, vous déplacez votre doigt pour vous rapprocher ici, donc vous allez vers l'aigu, la fréquence augmente parce que la longueur de la corde qui vibre diminue. Et bien, ici, c'est exactement un peu le même phénomène, simplement, c'est plus des ondes acoustiques ou mécaniques, c'est des ondes électroniques et des ondes lumineuses. Hein, quand on irradie avec de l'UV, on crée une excitation électronique, tout s'agite là-dedans, et une onde électronique stationnaire qui, qui s'établit, tout comme on avait une onde stationnaire qu'a de la corde, et qui va mettre ici, pour une grosse particule, une fréquence lumineuse basse, donc c'est du rouge, et lorsqu'on va diminuer la taille, on va aller plutôt vers le violet, donc on va augmenter la fréquence d'émission, comme on augmentait on allait vers l'aigu pour la corde de guitare, ici on va aller vers le violet lorsque les dimensions diminuent. Donc ça, c'est un objet fabriqué aujourd'hui qui permet effectivement de changer ses propriétés simplement en changeant la taille. On n'a pas changé grand-chose, simplement une dimension change et les propriétés changent notoirement. Voilà. Donc maintenant, comment on va travailler ? Donc la première chose que je vous avais dit dans la stratégie, c'est la reconnaissance et le ciblage cellulaire. Donc là, en fait, ça va être exactement comme ce que j'ai présenté là, pour le test de grossesse. Le physicien fabrique des particules fluorescentes, celles qu'on a vues précédemment. Ensuite, chimistes et biologistes vont fournir les bons éléments. Donc ici, vous avez le récepteur, c'est-à-dire c'est le marqueur, par exemple, d'une tumeur des poumons, si on prend ça par exemple. Et les biologistes connaissent parfaitement l'anticorps spécifique, la clé, donc qui va pouvoir reconnaître parfaitement le récepteur, donc le marqueur du cancer du poumon, par exemple. Donc vous faites les mêmes opérations, fonctionnalisation des particules, donc vous venez coller l'anticorps avec la bonne colle sur votre nanoparticule fluorescente. Et ensuite, vous introduisez ces particules donc à proximité de cellules cancéreuses. Et on a le mécanisme classique maintenant de reconnaissance. Donc la flèche bleue vient reconnaître la partie rose ici et se fixer. Et donc ensuite, il suffit donc d'envoyer de la lumière ultraviolette là-dessus. Et cette particule va fluorescer, va émettre une lumière verte. Et donc vous allez pouvoir localiser votre cellule qui aura capturé les nanoparticules, donc votre cellule cancéreuse dans ce cas-là. Et vous pouvez donc fonctionnaliser des particules donc de différentes tailles qui émettent différentes couleurs, celles qui spécifiquement vont se greffer sur la paroi cellulaire, ou d'autres qui vont pénétrer et vont venir interagir avec le noyau cellulaire. Donc vous aurez une émission en rouge, une émission en verte. Et on voit ici effectivement que ça marche. Là, c'est des cellules cancéreuses qui ont été marquées avec des particules émettant différentes couleurs. Le vert pour marquer la membrane cellulaire, qu'on voit très bien ici, et des particules qui émettent dans le rouge pour marquer le cœur de la cellule. Donc avec ça, on a une façon extrêmement précise, puisqu'on travaille dans des échelles micrométriques, nanométriques ici, donc de reconnaître et de cibler des cellules. Ensuite, il faut donc c'est l'action thérapeutique ciblée, il faut détruire la cellule cancéreuse. Donc vous disposez d'un vecteur qui fonctionne très bien, qui vise bien le cœur de la cible, cette nanoparticule fonctionnalisée. Ensuite, il faut avoir une arme qui va être... Alors, vous avez différentes possibilités. Donc, ça peut être une arme biologique. Ça peut être des brins d'ADN qui vont aller donc perturber un peu le système de division. Ça pourrait être peut-être une sorte de virus qui va détruire spécifiquement des cellules cancéreuses. Bon, ce qui marche plutôt aujourd'hui, c'est un traitement chimique. Donc, on va injecter des drogues au sein de la cellule. Donc, votre arme, c'est une drogue qui va la détruire. Ça peut être aussi des effets thermiques, je montrerai que ça peut marcher aussi, et des effets que j'appelle plutôt mécaniques, où là on va essayer de détruire mécaniquement la cellule, ou bien dans ce cas-là, c'est d'aider finalement le chirurgien à localiser parfaitement la tumeur et à faire une extraction aussi mécanique, donc globale d'une tumeur. Voilà, donc si on regarde toutes ces solutions possibles, délivrance ciblée du médicament. Donc l'idée là, c'est que les médecins et biologistes, je reviens là sur ce transparent, connaissent parfaitement commencent à bien connaître quels sont les bons médicaments, intelligents qui peuvent cibler les différents mécanismes de cancérisation. Donc le protocole idéal serait d'injecter ces nanoparticules qui sont actives et intelligentes, puisqu'elles reconnaissent la cible qui est la cellule cancéreuse. Ensuite, ces particules doivent s'accrocher et franchir éventuellement la paroi cellulaire pour délivrer localement le médicament intelligent. Donc ça peut être ceci, intelligent au sens qu'ils vont inhiber un certain nombre de ces mécanismes. Donc on profite de la forte concentration locale du médicament, bien entendu, et on a peu ou pas d'effets secondaires. En principe, on s'attend à ça, car on n'a pas dispersion dans le corps entier de tous les médicaments, puisque seules les particules qui sont accrochées aux tumeurs portent ce médicament. Donc la délivrance est parfaitement locale. Donc ce qui marche aujourd'hui, hein, puisque ça a été démontré déjà une dizaine d'années avec un médicament, le Doxil, donc qui est construit à partir d'un liposome et dans lequel on met un médicament doxorubicine, je ne sais pas exactement ce que c'est, qui est utilisé pour traiter donc des cancers très avancés qui sont résistants aux traitements classiques, cancer de l'ovaire et du poumon. Donc le liposome, ça a déjà été décrit précédemment, c'est une petite capsule là, de taille nanométrique, avec des couches de graisse finalement qui peuvent encapsuler ce que l'on veut à l'intérieur. Ici, ça va être des médicaments. Alors l'intérêt, c'est que la structure extérieure, la coquille, là, ça ressemble pas mal à la structure de la paroi cellulaire. Donc notre liposome, la chargée, va pouvoir venir par ici. Ils sont pas fonctionnalisés. On n'a pas de reconnaissance vraiment moléculaire. Mais en fait, il a une probabilité forte de venir interagir avec la membrane de la cellule. Comme il lui ressemble beaucoup, il vient adhérer. Et ensuite, donc ici, hop, il est mangé, je dirais. Et vous pouvez donc libérer localement votre médicament sur cette cellule. Donc ça, c'est quelque chose qui marche et qui est sur le marché aujourd'hui. Mais bien entendu, on peut imaginer de mettre beaucoup d'autres choses à l'intérieur pour avoir des actions plus spécifiques. Voilà. Une autre chose, c'est une publication là très récente qui me paraît intéressante aussi, c'est une délivrance programmée du médicament, c'est-à-dire piloter finalement de l'extérieur la délivrance du médicament. Donc ça, c'est des chercheurs américains qui ont fabriqué des nanocubes d'or, toujours ce matériau là un peu génial. Et propriété de ces petits nanocubes, quelques nanomètres, hein, ils font 50 nanomètres, c'est que tous les coins là sont ouverts. Hein, donc c'est quelque chose qui peut fuir. Donc leur idée, c'était d'introduire un médicament dans ce petit cube d'or. Ensuite, ils ont trouvé le bon matériau, c'est un polymère, je dirais une sorte de petit plastique qu'ils ont entouré, là, et qu'ils ont mis autour, qui permet de boucher les trous, donc il est étanche. Ce système et ce polymère, il a la caractéristique principale de se contracter lorsqu'on le chauffe. Donc, si on envoie donc un laser, un petit chauffage laser, par exemple sur ce cube, ce qui se passe effectivement, c'est vous voyez ici, ça s'ouvre. Donc, on peut effectivement libérer le médicament qui est à l'intérieur, là, peut sortir et se libérer dans la cellule. Donc, on imagine bien effectivement quel peut être le protocole avec ces objets. On injecte ces nanocubes d'or qui ont été fonctionnalisés pour reconnaître les bonnes cellules cancéreuses, donc la reconnaissance ciblage. Ensuite, on pourrait irradier avec un laser infrarouge pour chauffer localement ces petits objets qui vont donc ensuite relâcher leurs médicaments de façon très ciblée, très localisée. Donc ça, c'est des choses qui sont à l'étude, qui sont, je trouve, assez intéressantes. Donc, autre façon donc de traiter les cellules, et ça aussi, c'est aussi en développement déjà depuis plusieurs années, beaucoup aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, c'est ce qu'on appelle le traitement par hyperthermie localisée. Donc, le principe, c'est qu'on va pouvoir chauffer localement une tumeur, et pour conduire à la mort des cellules cancéreuses au-delà de 45 degrés et 50 degrés C. Donc là, quel est le principe de base? Il est montré ici, en fait, c'est que si on prend des nanoparticules, par exemple de silice, sur lesquelles on a déposé une petite particule d'or, et si on les irradie avec un faisceau laser infrarouge, hein, donc, qui n'est pas absorbé par les tissus, mais qui est fortement absorbé par cette particule, on va avoir une élévation locale de la température. On a une sorte de petit four, hein, ici, qui permet de gagner une dizaine à une vingtaine de degrés, donc qui permet de passer, je dirais, de 37 degrés à 50 degrés. Donc, ce que vous faites... Ces nanoparticules d'or, toujours la reconnaissance et le ciblage de la tumeur. Et ensuite, vous allez irradier la zone, la tumeur avec ce rayonnement infrarouge. Donc localement, la température va s'élever. Et effectivement, on peut avoir donc destruction locale des cellules cancéreuses qui auront absorbé ces petites nanoparticules. Donc on voit ici l'effet. Vous en voyez, donc lorsqu'on irradie avec le laser seul, c'est-à-dire qu'on n'a pas fonctionnalisé, on n'a pas mis de nanoparticules, rien ne se passe. Par contre, dans les zones où il y a eu des nanoparticules et qui ont été irradiées par le laser, on a une destruction complète de tout le tissu organique. Donc ça, c'est une méthode extrêmement intéressante. Et là aussi, on a toujours le même mécanisme, hein, c'est ciblé, c'est localisé. L'autre façon de faire, donc, je dirais, qui paraît un peu plus rustique, mais qui est aussi intéressante, donc, c'est destruction mécanique d'une tumeur. Le principe, en fait, c'est d'utiliser des petites particules, cette fois-ci, qui sont magnétiques. C'est des disques et qui ont la propriété, lorsqu'on plonge ces petites particules dans un champ magnétique alternatif, elles se mettent à tourner. Donc à des vitesses assez rapides. Donc l'idée ici est montrée sur ce schéma. De la même façon, c'est de venir faire en sorte que ces petites particules, ça va être du fer par exemple, hein, ou des oxydes de fer, viennent adhérer à la surface de la cellule, donc reconnaissent la cellule, adhésion. Et ensuite, lorsqu'on applique un champ magnétique, elles se mettent à tourner, je dirais, et elles vont détruire finalement, un peu broyer la paroi cellulaire. Et ce qui va conduire à la mort qui en principe conduit à la mort de la cellule. Donc, on a un intérêt, je dirais, thérapeutique, et l'autre intérêt, c'est qu'on peut faire de l'imagerie magnétique, hein, bien connue, l'IRM, donc qui permet effectivement donc de localiser la tumeur, hein, donc avec ces appareils classiques que vous connaissez ici. Et ça, c'est par exemple une image en IRM du cerveau qui permet de localiser la tumeur et surtout aussi de voir au cours du temps, comment elle évolue, donc en fonction du traitement que l'on applique, donc de l'intensité du champ magnétique, de sa fréquence et tous ces paramètres-là. Donc ça, c'est une voie intéressante aussi pour détruire ces cellules. Et enfin, donc, je dirais le dernier principe, le dernier effet finalement, où les nanoparticules peuvent être intéressantes, finalement, c'est d'assister le chirurgien donc, dans son intervention, tout d'abord donc, pour visualiser la tumeur. C'est-à-dire qu'on va fonctionnaliser la tumeur avec des particules fluorescentes. Hein, c'est le cas, on le voit ici, ça c'est sur un rat. Donc on a marqué de façon préférentielle une tumeur. Et lorsqu'on irradie avec une lumière infrarouge là, qui pénètre les tissus, on a une émission colorée ici. Donc là c'est en fausse couleur, mais on peut voir localiser la tumeur. Donc là c'est pour aider le chirurgien à localiser la tumeur, donc à l'enlever avec précision. Et surtout, donc, s'assurer qu'il n'y a pas des tissus cancéreux donc, qui ne seraient pas retirés. Donc, il peut avoir une intervention extrêmement propre et extrêmement localisée. Donc, plus facile peut-être à supporter par le patient, mais aussi peut-être plus efficace. Donc, voilà pour ce qui est les aspects, donc, je dirais, thérapie. Le dernier point, donc, c'est encore un peu de temps. Donc c'est sur le diagnostic précoce, donc, ou pour voir ce qui se passe, je pense que c'est peut-être là où c'est le plus important, durant la période de rémission, c'est-à-dire après les différentes interventions thérapeutiques, voir comment la tumeur et les cellules cancéreuses vont évoluer. Donc l'enjeu ici, c'est de pouvoir détecter efficacement un marqueur spécifique d'un cancer, soit au stade précoce, soit durant la période de rémission. Donc un exemple aujourd'hui de détection précoce que l'on connaît bien, c'est la détection du cancer de la prostate. Donc l'idée ici, c'est donc lorsque ce cancer naît, donc il y a un marqueur spécifique qui est une protéine, antigène spécifique de la prostate, donc que l'on sait détecter aujourd'hui au travers d'une analyse sanguine. Bon, ça marche, hein. Bon, bien que ce soit un peu contesté, mais enfin bon, c'est quand même c'est quand même utilisé aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de faire un peu la même chose. Enfin, c'est même de faire la même chose, mais cette fois-ci, au niveau peut-être des métastases qui pourraient être, je dirais, émises par une cellule cancéreuse, soit dans la phase précoce, soit dans la phase de rémission. Donc, ces métastases, donc, elles se promènent dans le système lymphatique du patient. Et l'idée, c'est si on peut les reconnaître, mais on peut savoir effectivement s'il y a danger, éventuellement refaire un traitement, et ainsi de suite. Donc, par contre, le problème est extrêmement difficile. Si on prend le cas de... pourquoi ? Parce que le niveau de détection n'est pas le même. Dans le cas du cancer de la prostate, en fait, ça revient à détecter une particule sur 100 000. Donc c'est déjà beaucoup, je dirais, à Poitiers, il y a quoi, 100 000 habitants, non, à peu près, voilà. Donc vous devez reconnaître une personne brune aux yeux bleus dans cette population, c'est faisable, hein, je pense, aujourd'hui. Par contre, dans le cas, reconnaître ces bastases, on change complètement de dimension, puisqu'il faut reconnaître une particule sur 10 milliards, finalement, c'est reconnaître une personne sur... sur l'ensemble des habitants de la Terre, à peu près. Bon, on est 6 milliards, mais on sera bientôt 10. Donc ça revient aussi, en fait, à détecter un grain de sel mis dans une piscine olympique. Hein. Donc c'est, si vous demandez, je mets un grain de sel dans la piscine, je vous donne une petite cuillère, et vous me dites si l'eau est plus salée ou moins salée. Alors, ce sera difficile. Donc ça, c'est un enjeu très compliqué. Et c'est pour ça que, je dirais qu'il y a un certain nombre de travaux pour mettre au point des systèmes donc, qui vont utiliser donc, aussi les nanosciences, nanotechnologies, pour atteindre ces seuils de détection extrêmement difficiles. Voilà. Donc, le principe de ce... Bon, il y a plusieurs types de capteurs, j'ai choisi d'en décrire un seul. C'est finalement une nanopoutre qui est une balance, finalement, qui va fonctionner comme une balance et qui peut fournir un capteur biologique ultra-sensible. Donc, le principe... Il est aussi simple, hein, donc ça ressemble un peu à ce que je décrivais précédemment. Donc si vous avez une poutre vibrante, si vous la chargez avec une petite masse, elle va vibrer, je dirais, dans l'aigu. Si la masse augmente, progressivement, vous allez aller vers les fréquences graves. Hein. Donc si vous mesurez la fréquence de vibration de cette poutre, hein, par exemple avec un micro dans ce cas-là, mais, ou avec un système électronique plus performant, vous pouvez peser finalement l'objet que vous avez posé ici. En fait, on va faire exactement la même chose pour détecter des marqueurs spécifiques du cancer. Donc là, on retrouve à nouveau le même mécanisme. Donc on prend cette fois-ci une poutre de taille nanométrique, hein, puisqu'il va falloir détecter des éléments très légers qui sont aussi de taille nanométrique. Donc on va fonctionnaliser, mettre la clé sur la poutre. Hein, à nouveau, on retrouve cette flèche bleue. Donc on a une fréquence, je dirais, à ce stade-là, de 100 kHz. Hein, j'ai pris un exemple un peu au hasard. Et cet anticorps, là, il va reconnaître un marqueur spécifique du cancer du poumon ou autre chose. Donc à nouveau, on a le système clé-serrure. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on change la masse qui est collée sur la poutre. Donc on va changer la fréquence de vibration. Donc si on est capable de mesurer cette variation de fréquence, on est capable de dire s'il y a eu reconnaissance ou pas, c'est-à-dire s'il y a présence de ce marqueur. Et un autre type de marqueur, par exemple plus lourd, une plus grosse molécule, va donner une autre fréquence de vibration. Donc on va pouvoir avoir quelque chose qui est spécifique et qui peut détecter différents types de molécules. Donc le record aujourd'hui, en fait... ça marche, mais bon, dans le vide, hein, pas encore dans des liquides, c'est qu'on peut détecter une molécule unique. Ça a été fait donc, dans le cadre d'une collaboration de Caltech et le LETI, donc le laboratoire avec qui je travaille, qui ont effectivement montré la faisabilité de cet objet, mais c'est encore loin d'être un objet de diagnostic que vous pourrez acheter chez votre pharmacien habituel. Hein. Voilà. Donc, comment ça marche ? Ben, ouais, ici, donc c'est des images d'artistes hein, de ces petits systèmes. Donc on a le principe, on a la nanopoutre, c'est un matériau piézoélectrique, c'est-à-dire qu'un matériau piézoélectrique, c'est quand on le déforme, il génère une tension. Hein, tout comme un allumeur de gaz, hein, quand vous appuyez dessus, vous le déformez, et cette tension donc, est utilisée pour faire une étincelle. Ici, c'est un peu le même principe. Hein. Donc vous avez ici différentes poutres, fonctionnalisées avec différents anticorps, différentes molécules. Donc celle-ci, elle reconnaît par exemple les particules bleues émises par cette cellule, les métastases émises par cette cellule cancéreuse. Elle va se déformer, ça va changer sa fréquence de vibration, donc ça va générer en fait une tension un peu différente ici. Donc vous allez pouvoir dire effectivement qu'ici, sur ce, vous avez reconnu ce type de molécules. Donc ça, c'est des matériaux, c'est des objets qu'on sait fabriquer aujourd'hui et qui résultent en fait de toutes les technologies qui ont été mises en place pour la fabrication des objets microélectroniques. En fait, ici, là, on voit ces nanopoutres ici, là, qui sont fabriquées sur du silicium avec les technologies utilisées pour fabriquer les microprocesseurs qui sont dans votre ordinateur. Donc on dispose aujourd'hui des technologies. Après, il y a tout le travail des chimistes, des biochimistes et des biologistes pour... pour savoir greffer correctement ces objets-là et faire en sorte qu'ils soient spécifiques. Donc là, il y a un gros travail, mais je pense que c'est une voie intéressante, en tout cas, pour arriver peut-être à diagnostiquer de façon précise et efficace un cancer. Voilà. Donc le dernier point, bien entendu, c'est que donc, ces capteurs, ils sont de petites dimensions. Donc l'idée est, qui est sous-jacente, c'est d'avoir finalement un nanolaboratoire, un petit laboratoire sur puce, c'est-à-dire que tout ce qui aujourd'hui est fait voilà, sur 100 mètres carrés par 5-6 personnes, on espère pouvoir peut-être un jour, ben ça se fait déjà d'ailleurs, mais sur une puce qui va faire quelques centimètres carrés, bon ça va mettre un peu des gens au chômage malheureusement, hein, bien entendu. Mais donc le principe de finalement de ce laboratoire sur puce, c'est d'avoir un système dans lequel on peut injecter, par exemple, une goutte de sang et avoir ici un ensemble de capteurs, de systèmes chimiques, de systèmes de microfluidique qui permettent de guider ces flux dans toutes les directions pour pouvoir faire toutes les analyses, finalement, ces nano-analyses que j'ai décrites précédemment. Donc ça, c'est des objets aujourd'hui que l'on sait fabriquer. Bon, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ça devienne un objet, je dirais, courant et du commerce. Je dirais aujourd'hui, ça commence à être utilisé pas mal pour la recherche, hein, d'ailleurs, pour comprendre un peu ce qui se passe dans toutes ces problématiques. Voilà, donc j'en ai terminé pour mon exposé. Donc les conclusions que l'on peut tirer de ça, tout d'abord, donc, c'est que je pense que ces technologies développées aujourd'hui, résultant donc de tout ce que j'ai décrit précédemment, ça procure en fait des outils nouveaux aux biologistes, aux médecins, parce que finalement, là, je dirais les technologues, les physiciens ne font que fournir des outils à des gens qui vont les utiliser. Et c'est eux qui vont savoir si c'est adapté ou pas, si c'est les bons outils qui permettent donc de mieux comprendre le mécanisme du cancer, ce qui est aujourd'hui un élément très important. Donc c'est dans le domaine de la recherche et aussi dans le traitement donc pour guérir du cancer. C'est clair que ça ouvre des champs nouveaux pour le diagnostic précoce. Et un traitement qu'on espère plus efficace, tout le monde souhaite, et aussi plus confortable pour le patient. Donc ça, c'est des points positifs. L'autre chose qu'il faut savoir quand même, c'est que le chemin encore est long. C'est-à-dire que les choses que j'ai décrites ici sont dans les laboratoires. C'est aussi dans la tête des gens. On est plutôt dans la partie, souvent un peu dans le rêve. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de déchets aussi, beaucoup de publications, de systèmes qui ne seront jamais utilisés, ça c'est clair, mais ça je dirais la recherche c'est comme ça, souvent comme ça, le déchet est important. Il reste aussi beaucoup de voies à explorer, quelle sera la bonne, je pense que c'est aujourd'hui difficile de le faire. Il y a tous les problèmes effectivement d'efficacité de ces objets, de la toxicité, il ne faut pas que le vecteur soit plus toxique que la maladie ou que le médicament, et il y a aussi un aspect économique important, ça va être quel va être le coût de ces thérapies. Aujourd'hui, bon, je pense qu'on ne sait pas ou encore difficilement. Beaucoup de voies restent à explorer, mais je dirais que l'avancement simultané de toutes ces disciplines concernées fait que sûrement des progrès seront faits dans les années à venir. Voilà. Donc, je voudrais encore vous remercier de votre attention, donc m'avoir permis de parler, je dirais, sereinement de ces problèmes. Merci.
Merci pour cet exposé très intéressant qui, je suppose, va susciter de nombreuses questions. Oui,
moi je m'associe vraiment, je suis époustouflé par la présentation et je vous en remercie. Je ne voudrais pas être un briseur de rêve, mais comme c'est dans la conclusion, je ne peux pas résister. Vous avez effectivement développé un cheminement, plus qu'un cheminement intellectuel, mais on sent bien qu'il y a un cheminement intellectuel sur différentes stratégies, et je pense en particulier au cheminement thérapeutique de lutte contre le cancer, plus qu'au diagnostic. Est-ce que ce cheminement intellectuel que vous menez et que vous essayez de concrétiser un peu dans vos laboratoires pour le rendre opérationnel, est-ce que vous avez aussi la même démarche vis-à-vis des effets secondaires? Je n'ai pas pu m'empêcher dans votre exposé, même très brillant et que j'ai beaucoup apprécié, de penser effectivement à tous les rêves qu'a procuré la radiothérapie à un moment donné. et les effets collatéraux que ça a posé. J'ai en tête des images qu'on m'a montrées récemment d'enfants de 14 ans qui étaient morts guéris d'un cancer parce que les effets collatéraux étaient tels que la cage thoracique n'avait pas pu se développer, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a une bonne connaissance à la fois des avantages et des inconvénients. Et je crois qu'on ne peut plus mettre en place, je dirais, une technologie en opérationnel, en quotidien, si je puis dire, sans avoir étudié à minima ces deux aspects. Excusez-moi, j'ai presque un peu honte de la poser, parce que c'est quand même, ça ouvre un champ considérable d'espoir, il faut le dire.
Oui, donc ce que je voudrais dire, bon, tout d'abord, vous parlez de la philosophie, c'est pas la mienne. Hein. Enfin, c'est-à-dire que je suis pas un acteur, je dirais, direct de ce métier-là. Ce que j'ai noté quand même, je pense, c'est la première phrase. Effectivement, donc je me place du point de vue peut-être du technologue et du physicien. Ça ne veut pas dire que je me décharge des responsabilités. L'idée, effectivement, c'est finalement, est-ce qu'on a un certain nombre d'outils aujourd'hui, hein, et ce qui se passe, en fait, c'est que les biologistes, les médecins, enfin, viennent vers nous aujourd'hui pour savoir est-ce qu'on pourrait effectivement les aider. Hein. Donc, je dirais, la démarche quand même ici, c'est ça, c'est d'avoir, et ça, c'est, je dirais, c'est un mécanisme fort dans les nanosciences, dans la technologie, c'est cette convergence entre les différentes disciplines. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui fabriquent ces objets, qui les maîtrisent finalement dans leurs propriétés, ils peuvent les proposer aux médecins, hein, effectivement. Donc, comme je dis, c'est un outil très, très important dans la recherche, c'est clair, aujourd'hui, pour comprendre ce qui est le mécanisme du cancer. Après, pour les aspects thérapeutiques, comme je dis, c'est les médecins qui vont décider. C'est eux qui décident, effectivement, si c'est intéressant, si c'est efficace. Ces aspects toxicité, c'est aussi c'est eux qui le regardent tous les jours. Ils regardent effectivement les problèmes, c'est-à-dire les dégâts, je dirais, collatéraux au deuxième degré, hein, parce que le premier quand même, la première volonté, c'est de détruire une cellule, une tumeur, et en limitant les dégâts autour. Hein, je pense que là, il y a vraiment une... Les gens sont tout à fait conscients de ça. Donc, c'est effectivement de limiter ces effets secondaires. Aujourd'hui, je pense que dans le cancer, enfin, tout le monde a été confronté à ça. On voit les dégâts que ça cause, hein, donc, en termes d'effets secondaires qui sont très bien supportés. Donc, ça peut peut-être y pallier. Effectivement, la difficulté, c'est est-ce qu'une personne qui aura été traitée avec ces objets-là, hein, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, hein, mais est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, elle aurait peut-être été guérie de son cancer, mais elle aura d'autres effets secondaires qui vont traduire une autre maladie. Ça, moi, personnellement, je peux pas vous répondre. Il faudrait que ce soit un médecin, je dirais.
Vous en avez un, et je peux répondre.
Ben, voilà, oui, tout à fait. Ben, voilà, donc, c'est parfait.
donc, pour dire tout simplement, si vous voulez, ne superposons pas les thérapeutiques, premièrement. Deuxièmement, je pense que la science fondamentale nous a beaucoup apporté, elle nous apportera encore beaucoup. Nous nous retournons vers elle parce que nous avons encore beaucoup de questions qui restent sans réponse et beaucoup de champs inconnus dans l'humain. Beaucoup de champs inconnus. Nous prendrons par exemple le problème vasculaire. Là, parce que c'est un nœud du problème à venir, dans la mesure où tout à l'heure, monsieur a parlé de la néovascularisation des tumeurs. Sachez que dans le corps, en dehors des artères, il y a les veines, il y a les vaisseaux lymphatiques, puis ensuite, aux ramifications de tout ça, il y a la microcirculation. C'est des milliards et des milliards de kilomètres dont personne aujourd'hui ne peut en évaluer, si vous voulez, la distance exacte. Alors, quel est le problème de fond? Le problème est, si vous voulez, de pouvoir faire une balance entre l'ensemble des bénéfices et celui des risques, et de savoir si vraiment quelque chose en vaut la peine. En tant que médecin, en tant que scientifique, je vous dirais, ça vaut la peine d'essayer. Je ne veux pas tomber dans le facile en vous disant on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais je dirais tout simplement ceci, si vous voulez, nous sommes dans une situation aujourd'hui où la pathologie cancéreuse devient un enjeu de santé publique. À côté de cette pathologie, vous avez d'autres maladies de système qui le sont aussi. Alors, va-t-on, si vous voulez, s'arrêter tout simplement parce que nous avons quelques effets secondaires sur le début, par exemple, de certains systèmes thérapeutiques, ou va-t-on continuer en posant, bien sûr, des cohortes et en prenant, si vous voulez, des précautions pour que ces nouvelles thérapies n'aient pas autant tant de conséquences désagréables pour le patient que la maladie elle-même. Je vous dirais sincèrement, je ne le pense pas, sinon M. Pasteur n'aurait jamais fait l'essai de son vaccin.
Tout à fait. Merci.
Tout d'abord, je voudrais vous dire combien je suis impressionné par votre exposé et son contenu, bien entendu. Je voudrais faire observer, pour ce qui concerne les effets secondaires, qu'il est très possible qu'on ne sache les choses qu'au bout de plusieurs décennies. Je vous rappelle de fait, le premier qui est très connu, c'est qu'on a donné des estrogènes aux femmes enceintes il y a 50 ans ou plus, et que ce sont leurs filles qui font des cancers de la vulve ou du vagin. Deuxièmement, pour ce qui me concerne, j'ai traité des maladies de Hodgkin gravissimes et je croyais avoir guéri ces malades. Ceci il y a 30 ans. En fait, on sait aujourd'hui, et je l'ai appris il y a très peu de temps, que l'irradiation utilisée sur le thorax lèse les vaisseaux coronariens et en particulier, j'ai une de mes anciennes externes que j'ai traitée pour Hodgkin, elle avait 16 ans à l'époque, elle n'était pas encore mon externe, et elle est morte récemment d'une insuffisance cardiaque liée à une atteinte coronarienne. Je pense qu'on peut très bien n'observer aucun effet toxique pendant 10 ans, c'est un peu ce que vous avez dit, et puis qu'on se réveille dans 30 ans avec de gros problèmes.
Oui, non, mais...
Ceci dit, ça n'empêche pas, bien entendu, d'utiliser ces produits. Seule l'expérience permet de savoir ce qui se passe.
Non, mais je crois que là aussi, on a des phases, enfin, c'est toujours comme ça, d'acquisition d'expérience. Ce qu'il faut, c'est ne pas oublier effectivement ce qui a été fait. Et chaque fois, cette accumulation, je dirais, d'expérience, c'est un peu aussi dans le cheminement de la recherche scientifique, effectivement, les expériences du passé, bon, faut pas les oublier. Et ça permet effectivement de progresser. Je crois que ça, c'est... Je ne vois pas comment faire autrement, en tout cas.
Bonjour. Ouais, d'abord, merci pour votre exposé très, très illustré. Moi, je me pose une question un peu plus en amont, même si je me doute bien que l'environnement dans lequel on travaille a de l'influence. Vous travaillez, je crois, sur un programme avec le CEA, c'est ça ?
Moi, je travaille au CEA.
Voilà. Oui. Donc, ils sont quand même plutôt technologie, avec beaucoup d'espoir sur la résolution de problèmes par des réponses technologiques, et, essentiellement. Et puis, vous êtes à Grenoble, et Grenoble, c'est un peu la mecque des nanotech actuellement en France. Donc, quand vous rencontrez des collègues, et ça, c'est quand même effectivement un avantage de croiser d'autres professionnels dans d'autres disciplines, mais avec qui vous avancez ensemble, vous restez quand même confiné avec cette logique, on va trouver des réponses technologiques. Mais dans le titre de votre intervention, qui est axé sur le diagnostic précoce et le traitement, il manque une phase. C'est la prévention des cancers. Et ça, on a tendance à l'oublier. Alors, ça fait sûrement peut-être plus d'activité et de boulot pour pas mal d'acteurs sur la filière aval, mais il y a la filière amont. Et Roland Quaignot, tout à l'heure, qui disait « quid des chaussettes qui ont été traitées, etc. » avec l'impact dans les stations d'épuration et après les résidus qui peuvent aller dans la rivière que le poisson va gober parce que les nanoparticules ne disparaissent pas comme ça par enchantement et que le pêcheur va manger ses poissons, qu'est-ce qu'on a comme impact à moyen terme, etc. Et quand je constate effectivement qu'il n'y a que 2% des budgets qui sont consacrés à la recherche de toxicité, je me dis qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de volonté et je ne compte pas sur les entreprises qui ont intérêt à faire du business là-dessus pour faire de la recherche de toxicité, parce que ça peut aller à l'encontre de leurs propres intérêts financiers. Mais je reconnais que c'est de bonne guerre, c'est logique pour eux.
Oui,
ce qui est dommage, c'est que si vous avez de l'échange avec les collègues de différentes disciplines, il manque effectivement cet échange avec les pseudo-bénéficiaires, les consommateurs et l'impact que ça peut avoir.
Bon, alors pour répondre au dernier point de votre question, je dirais... Moi, j'ai volontairement voulu cibler mon exposé sur les aspects techniques, je dirais, Donc, parce que les points dont vous discutez sont très importants. Je pense que c'est pas un autre débat, c'est complètement intégré. Mais je pense que, j'irai en une demi-heure, j'ai pas le temps. Puis surtout, je pense pas être la bonne personne pour parler de tout ça. Je pense pas que là aussi une seule personne puisse parler de tout. Donc moi, mon exposé, il était plutôt les aspects techniques pour vous montrer effectivement ce à quoi les gens pensent. Ça, c'est clair. Après, ces aspects, donc pour revenir à l'aspect, c'est sûr que la meilleure façon de traiter le cancer, c'est la prévention dans les phases initiales, ne plus en avoir. Donc c'est des aspects, je dirais, de santé publique, enfin tous ces aspects-là qui n'ont, je dirais, peu grand-chose à voir à ces aspects nanotechnologie. Enfin, je vois pas... Empêcher quelqu'un de fumer, par exemple, ça ne relève pas des nanosciences, à mon avis. Donc je souhaite pas, en tout cas ici, aujourd'hui, me lancer dans ce débat, effectivement, parce que pour la bonne raison que c'est un débat qui est très important, je pense qu'il faut qu'il y ait les bonnes personnes qui puissent répondre, effectivement, avec les bons arguments. Donc voilà, je crois que j'irai ici quand même. Moi, je reprends le commentaire là de monsieur là qui est médecin. Effectivement, c'est que on a quand même quelque chose d'important. C'est le cancer. Comment on peut le traiter? Un peu pour caricaturer, on a à choisir entre le pire et le mal. Le pire, c'est de laisser effectivement cette maladie évoluer. Et là, on a peut-être un jour, on aura peut-être des outils qui présentent un certain nombre de dangers, effectivement, je comprends tout à fait, mais qui peuvent permettre de faire des progrès et d'améliorer, je dirais, effectivement, le traitement de cette maladie et éventuellement aboutir à des guérisons durables sans effets secondaires trop importants, c'est vrai. Voilà.
En inhibant la néovascularisation des tumeurs. Et ceci grâce à la nanotechnologie. Donc il faudrait savoir ce que nous voulons. Là, la question posée était de savoir où en était la recherche fondamentale concernant ce problème-là. Et rien que ce problème-là, nous n'en excluons pas les autres. Mais ce qui nous intéressait, c'était de savoir où en était la recherche fondamentale française dans ce problème-là, celui qui est posé et pas un autre.
Bon, félicitations effectivement pour avoir mis en lumière toute l'interdisciplinarité entre les chimistes, les physiciens, les biologistes et probablement d'autres personnes d'ailleurs. La question, moi, vous avez beaucoup parlé de nanoparticules d'or qui intervient, qui semble être un support intéressant, en tout cas largement développé pour un certain nombre de vecteurs thérapeutiques. A-t-on quelques reculs, justement, puisqu'on a beaucoup parlé de problèmes de toxicité sur ces nanoparticules d'or? Pourquoi l'or? Pourquoi pas d'autres?
Les particules d'or... Particules d'or, tout d'abord, elles sont assez faciles à synthétiser. On sait très bien les fabriquer.
Il y en a d'autres aussi.
Oui, il y en a d'autres, oui, tout à fait. Donc, l'intérêt, l'or, c'est quelque chose qui ne s'oxyde pas, donc qui est assez, assez peu réactif. Alors... dans les dimensions macroscopiques, c'est assez peu réactif. C'est clair que ces particules de petite dimension, on le sait aujourd'hui, ça c'est connu, puisque les catalyseurs qui sont dans vos pots d'échappement, ils marchent bien parce qu'ils sont de petite dimension. Donc vous allez en parler. Effectivement, ça change la réactivité. Mais ce n'est pas de l'or, c'est du platine. Donc ça change effectivement la réactivité. Donc c'est clair que les interactions avec des tissus, des cellules, des organismes vivants sont sûrement différents. Je pense que je sais qu'il y a des études qui sont lancées là-dessus. Je sais que le CEVA, effectivement, monte à Grenoble, il y a un laboratoire qui se monte justement pour étudier effectivement ces aspects de toxicité sur ces nanoparticules, en particulier comment surtout protéger les futurs travailleurs, donc des aspects-là. Donc je pense qu'il y a des choses qui se font, sûrement pas assez, c'est vrai que. Mais j'ai quand même l'impression, là je suis un peu optimiste, malgré tout, que finalement ce débat un peu national ou même international fait quand même que la prise de conscience a été assez rapide. C'est-à-dire que dès maintenant, c'est quand même pas très vieux, ces choses-là, c'est quelques années, cette prise en compte des risques potentiels. Et c'est quand même fait. Je pense qu'il y a une démarche, elle n'est peut-être pas suffisante. Ça, il y a toujours qui vont penser que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas facile non plus, mais je pense que ça existe. Il y a cette volonté quand même claire qui existe de savoir, effectivement, on sait que ça peut être très intéressant, c'est vrai, je pense qu'il faut les utiliser, mais il y a aussi effectivement un certain nombre de personnes qui cherchent à comprendre quels sont les effets secondaires, la toxicité potentielle de ces particules.
Le débat national au moins a eu le mérite qu'on en parle, même si on peut dire que ça ne s'est pas passé bien partout.
On aurait sûrement le mérite de ne pas en parler. Enfin,
non, mais que quand même...
Ici,
même
d'accord, mais pas...
Qu'on arrive à en parler, si vous voulez, dans les journaux, on a quand même dit que le débat national ne s'était pas bien passé, au moins on en a parlé.
Oui,
donc
c'est
pas, dans ce sens-là, ce n'est pas mauvais.
Non,
c'est... Voilà.
Bon, attendez, s'il vous plaît. Il y a encore une intervention après. On va marquer une pause de quelques minutes.
Deux minutes, trois,
allez, pas plus.
Trois minutes.
Non, mais on peut... 10 minutes, allez. Oui.